Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Au bout du foot, une émission spéciale. Hein. On est dans les locaux de UCP Meudon avec Philippe. Voilà, oui, juste après gâtés, l'émission Mon Paris Sport. On est très bien. Oui, on est bien lotis aussi là. On est bien positionné hein, aussi. Juste donc, derrière un rouge, petit. Oui, c'est ça. Juste derrière le terrain de foot. C'est ça. Avec nous, Salson. Comment ça va, Salson?
Ça va, nickel. Et toi?
Bien assis, bien installé.
Ah, bien installé. Hein.
Bonne semaine de football.
Ouais, bonne semaine de football. Ouais. Dans l'ensemble. Ouais. Un peu déçu d'hier soir, mais on va en reparler de toute façon.
On va y revenir. Maxence, je suppose que tu as passé une très belle semaine de
ça
football.
Ça ne peut pas aller mieux, là.
Ça ne peut pas aller mieux.
4-0, 3-0. Limite, la trêve internationale arrive au même moment. Ah oui. Donc là, je suis un peu frustré. Mais très belle semaine de football.
Ok, mais en tout cas, là, vous êtes sur une bonne continuité. Hein. Là,
très bonne lancée. On en reparlera aussi, mais je suis plutôt confiant pour la suite de la saison.
C'est bien, ça fait plaisir. En tout cas, c'est pas tout le temps que qu'on a la chance d'avoir du monde aussi content autour de la table. Avec nous, Théo. Théo, une nouvelle recrue, on va dire.
Ouais, comme c'est ça.
On l'accueille avec plaisir. Bienvenue, Théo.
Merci.
Comment ça va, Théo?
Bah super. Écoute, on sort de l'émission. Le cadre est super, génial. Clubhouse, terrain sur le toit, on voit tout, c'est génial.
C'est super. On va pas te demander ton club de cœur pour l'instant. Hein. On va laisser nos auditeurs en penser ce qu'ils veulent. Mais bonne semaine de football.
Dans l'ensemble, ouais, quand même. Dans l'ensemble, oui.
T'as pu passer de la Ligue des Champions, la Ligue 1, un peu tous les championnats. T'as pu suivre un peu tous les championnats.
Bien sûr. Tous les week-ends, on suit ça de près. Hein, le football, hein, c'est notre passion. Donc.
Et avec nous, Vanessa aussi. Vanessa, comment
Bonjour
ça va?
Bonjour à tous, ça va très bien. Bah, écoutez, très belle semaine aussi, hein. je vais pas mentir, très belle semaine dernière, j'étais très heureuse. Voilà.
T'es à côté de Maxence, je suppose que cela en dit long sur le club que tu supportes aussi.
Ça en dit long, voilà. Et, mais c'est un bonheur parce que je vois un rebond et ça fait vraiment plaisir. Et puis on a quand même un championnat d'une manière générale qui est intéressant. Même si je suis néophyte, hein, il faut le dire. Mais voilà, je fais ma petite incursion aujourd'hui ici.
On sait lui inculquer les balles du foot. Hein, voilà.
Voilà, avec grand plaisir.
Merci Vanessa. On va commencer direct avec la Ligue 1. Marseille qui corrige Metz, 3-0, hein, et reviennent à un petit point du Paris Saint-Germain qui ont été tenus en échec, 1-0, grâce notamment à un but de Ethan Mbappé.
Le faux
Ethan
frère.
Mbappé. Qui a marqué devant son frère Kylian et devant son papa aussi Wilfried, qui étaient en tribune et qui étaient très heureux de voir Ethan marquer face au Paris Saint-Germain. Donc, score assez logique en vue du match aussi, hein, 1-0. Qu'est-ce que tu en as pensé, Salson? Un peu déçu, je suppose, de cette prestation du Paris Saint-Germain?
Bah, déçu, c'est un grand mot, mais on aurait pu mieux faire. Après, c'est un match assez équilibré. On a vu Kylian Mbappé être bien content du but de son petit frère. Ça, on ne peut pas lui en vouloir. Après, je ne sais pas si c'est. Il y en a, ils voient ça comme une provocation. Bon, moi, je vois ça. Il est content que son petit frère marque. On sait qu'il aime son frère. Après, voilà, c'est un match équilibré. Bon, on aurait été content qu'il y ait une victoire après ce qui s'est passé mercredi en Ligue des Champions. Voilà, une belle petite remontada, si on peut dire. Une très belle prestation du Paris Saint-Germain avec les petits jeunes. Mais bon, ça reste un bon résultat un partout. Mais bon, on peut espérer mieux pour la prochaine saison.
Merci, Salson. Théo, qu'est-ce que toi, tu as pensé des Marseillais depuis là, depuis cette semaine? Enfin, on va plus parler de ce week-end. La prestation, bon, après, c'était Metz en face, Metz qui sont derniers. Mais quand même, Marseille arrive à enchaîner.
Ouais, il y a une vraie continuité dans les résultats du côté de Marseille. Entre la belle promesse qui était le match face à Madrid déjà, la victoire face à Paris et l'Ajax cette semaine et maintenant, même si tu l'as dit, c'est que entre guillemets Metz. C'est rare la continuité à Marseille. Ça passe très vite de, du paradis quasiment entre guillemets à l'enfer. Donc c'est bien pour Marseille, c'est bien pour le championnat français aussi. Et il y a quelque chose à faire en, en Ligue des Champions. Donc faut continuer comme ça en fait.
Merci Théo. Bien évidemment, Marseille qui reste sur deux clean sheets consécutifs aussi. Hein. Ça, faut le dire, hein, l'année dernière, c'était pas le point fort des Marseillais. Mais aujourd'hui, avec Pavard et Aguerd, c'est de bon augure, en tout cas, pour l'instant.
Ils n'en prennent pas en Ligue des Champions, je crois.
Non, ils n'en prennent pas, ils n'en prennent pas non plus.
Et il y a Paris, le PSG.
Et il y a le PSG, trois. Oui, trois consécutifs.
Mais oui, au-delà de ça et au-delà du résultat, parce que gagner 3-0 face au FC Metz, normalement, c'est quelque chose qui n'est pas notable en soi, mais c'est plutôt la manière, moi, et c'est une équipe mature. Je vois une équipe mature. L'année dernière, typiquement, c'est ce genre de match où, on pouvait se faire, où l'OM pouvait se faire piéger, où il pouvait y avoir des petits accros, une première mi-temps qui est difficile, avec un poteau, avec des occasions manquées, un peu de frustration qui commence à arriver. Et on voit une équipe mature, et c'est là qu'on voit les apports des Pavard, Aguerd, qui sont des joueurs d'expérience. Emerson, même Emerson côté gauche, qui est un joueur intéressant. Et au fur et à mesure, en restant calme, en continuant, en gardant le plan de jeu, ça se débloque sur un coup un peu du sort et un petit peu de réussite qui avait fui jusque-là les Marseillais. Mais moi, je trouve ça super intéressant. Et comme tu le disais, Théo, il y a le côté à Marseille où on passe vite du tout au tout. Et ça aurait été tellement Olympique de Marseille d'en mettre 4 en Ligue des Champions et d'aller perdre 2-1 à Saint-Symphorien juste derrière. Ouais. Et là, pour le coup, on voit qu'on ne tombe pas dans ces travers-là. Et donc, c'est ça qui me dit que c'est encourageant pour cette saison. Je ne vais pas commencer à imaginer des folies en Ligue des Champions, etc. Ouais. C'est pas du tout. Enfin, l'objectif pour moi, il est d'être dans le top 24 et d'aller en 16e de finale. Ce serait déjà une belle première étape. Mais en Ligue 1, le point, il est de battre tous les adversaires qui sont battables par l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire 16 équipes sur 18 déjà, à part le PSG et éventuellement Monaco ou Lille, sur lesquels on voit ce que ça donne et on démarre le match à 50-50.
Et pas Lyon ?
À Lyon, je pense que tu dois être meilleur. Je pense que vu les effectifs actuellement, si tu arrives sur Lyon, tu vas les recevoir au Vélodrome, tu n'as pas à rougir et tu dois prendre 3 points. Donc pour moi, toutes les équipes sont jouables et Marseille se doit d'être régulier avant tout. Les coups d'éclat, c'est bien de temps en temps, mais il faut être régulier et il faut Nantes. La Ligue 1, c'est ça, hein, c'est Nantes, Toulouse, Brest, c'est ces équipes-là et il faut les battre 9 fois sur 10 pour arriver à concurrencer le PSG et au moins être dans un rayon de 7, 8, 10 points et pas être largué à 25 points. Ça, c'est pas normal.
Merci Maxence pour cette belle déclaration. Ça te fait doucement sourire, Salson. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de tout ça?
Non, il a tout à fait raison, je suis d'accord avec lui. C'est juste que quand les Marseillais perdent certains matchs qu'ils devraient gagner, ils remettent en cause le Paris Saint-Germain. Et c'est pour ça que ça me fait sourire.
Non, il n'y a aucun rapport.
Aujourd'hui, il n'y a aucun rapport. On en reparlera dans quelques journées.
Par contre, si tu veux me lancer là-dessus, j'ai quelque chose à dire sur Lille. Pour moi, c'est un scandale ce qu'a fait Lille hier, qui est une des 5 meilleures équipes de France, qui joue contre un PSGB, parce que la semaine dernière on se prenait la tête sur est-ce que c'est le PSGB ou pas. Contre l'OM, pour moi c'était pas le PSGB, il te manquait 3-4 titulaires. Hier c'est le PSGB, hier il y a un titulaire, c'est Pacho, sinon il n'y en a pas un autre. Manière dont Lille aborde ce match en étant en victime expiatoire alors que le milieu c'est Likanguin, Mayulu, Djantou, tu peux pas arriver comme ça en victime alors qu'en face il se passe rien. Tes latéraux, Hakimi, Nuno Mendes sont pas là. Ta charnière, il n'y a que Pacho. Au milieu, tu n'as personne. Et devant, tu as Barcola. Donc, non, pour moi, ce n'est pas possible la manière dont Lille a attaqué le match. Et moi, quand je vais au carton sur le niveau de la Ligue 1, c'est plus le fait que le PSG puisse se permettre de mettre des équipes B, C, D et de continuer à prendre des points, alors que les autres doivent être toujours au top. C'est ça la différence. La différence, elle est là. C'est qu'un PSG, il peut jouer Brest, il peut jouer Nantes, il peut jouer Toulouse. Même avec les U19, quasiment, ça gagne.
Merci, Maxence. Philippe, est-ce que toi, tu penses qu'aujourd'hui, Barcola serait un titulaire indiscutable en vue de sa prestation d'hier, hein, quand même, Barcola, en vue de Désiré Doué, etc., et en vue de Barcola, tout simplement, ces derniers jours. Est-ce que c'est pas là où il devrait prendre des points et le leadership qu'il ne prend pas ces derniers temps?
Moi, je suis pas inquiet pour le Paris Saint-Germain. Je suis pas inquiet sur le Paris Saint-Germain. Quand on voit la prestation que le PSG a faite contre Barcelone, avec une équipe totalement diminuée, ils sont quand même en tête du championnat de France avec 3 points d'avance, même s'ils ont perdu le Classico. Avec un point, pardon. Oui. Même s'ils ont perdu le Classico, même si ils arrachent le match nul à Lille, ils ont un effectif qui est décimé, un effectif et beaucoup de joueurs. Je suis pas inquiet. Ils vont monter en puissance encore. Donc déjà être en tête du championnat avec un point, avoir fait le début de saison qu'ils ont fait avec une équipe décimée, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et puis Barcola, bah, ouais, il va aussi monter en puissance comme les autres. Et pour Marseille, c'est vrai que c'était un des meilleurs débuts de saison quand même qu'a fait l'OM. Et c'est surtout cette régularité. Ils sont battus à Madrid 2-1 sans faire un mauvais match, hein, au contraire. Et bon, on aurait préféré qu'ils soient battus sur une action de jeu plutôt que sur un pénalty imaginaire. Ils battent l'Ajax d'Amsterdam, ils sont réguliers, ils gagnent le Classico, ce qu'ils n'avaient pas fait depuis 14 ans. Ils vont gagner effectivement à Metz. Donc cette régularité, oui, c'est bien. C'est un des meilleurs débuts de saison de Marseille. Mais enfin, quand Paris va mettre le turbo, je bien pense sûr. qu'il n'y aura pas photo. Moi, je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet du tout pour le PSG.
Mais pour moi, l'OM ne doit pas se comparer au PSG. L'OM doit faire son championnat, prendre ses points, finir deuxième largement. Par contre, moi, je veux que l'OM...
C'est ce que je te disais déjà
après le début de saison, c'est que l'OM doit finir deuxième avec un écart. Il doit y avoir le PSG, l'OM et les autres après.
Parce qu'il y a eu pire hein, comme début de saison pour Marseille.
Et pour le coup, ça commence très mal parce que le mois d'août est catastrophique. Rennes, la bagarre. Après, il y a la défaite à Lyon. C'est 3 points sur 9 pour commencer.
Et après, tu fais un sans
finalement, ils ne sortent pas si mal avec les départs de Rabiot et de.
Ils ont été très bien remplacés par O'Reilly, qui est un très bon joueur. Vermeeren, qui arrive au milieu aussi contre l'Ajax, il a été monstrueux. Pechao sur le côté, qui est meilleur que Jonathan Rowe. Non, franchement, c'est du bon boulot de la cellule.
C'est surtout défensivement que je trouve que Marseille a fait les bonnes pioches parce que l'année dernière, il y avait déjà Rouli, qui est pour moi un des, si ce n'est maintenant avec le départ de Donnarumma, le meilleur gardien de Ligue 1.
Mais il devant était... Chevalier,
je pense.
Actuellement, c'est la seule chose que je peux confirmer.
Peut-être que
quelques boulettes à Chevalier.
À l'instant T, je trouve que Rouli est en tout cas plus constant. Et l'année dernière, je le trouvais vraiment esselé. Il faisait déjà des miracles dans les cages, mais il était vraiment seul en défense. Alors que là, avec l'arrivée de notamment Pavard, on amène de l'expérience, un peu plus de sûreté. Et je trouve que c'est dans ce point-là que Marseille a vraiment progressé.
Et le nombre de matchs à l'extérieur l'an dernier, notamment à Auxerre, où on sent que c'est sur un fil derrière Rouli fait des miracles, mais ça suffit pas. Et là, contre Metz, tu sens une sérénité à 0-0. On sait que
ça panique pas.
Et s'il y a un but qui doit arriver, ça va être du côté de l'OM.
Mais excusez-moi, mais là, en tout cas, pour Marseille, c'est vrai que c'est beau, tout va bien. Après, l'orage, bien sûr, du début de saison. Mais... faudra faire attention quand même parce que Marseille vont perdre des joueurs importants durant la CAN qui sera durant cette année. Mais du coup, est-ce qu'ils pourront même prétendre à être deuxième assez
La CAN, c'est que
aisément.
Deux matchs de Ligue 1, je crois. Ça touche que deux ou trois matchs de Ligue 1, sachant qu'il y a des joueurs qui vont à la CAN, un Aubameyang avec le Gabon, on sait jamais, mais normalement, il va pas aller la gagner, la CAN. Donc, il va pas partir pendant un mois et demi. Donc, moi, je pense que ça va être compliqué, mais ça sera compliqué pour tout le monde. Ça va s'égaliser, même si Marseille a quand même beaucoup de joueurs concernés.
Oui, après, le problème avec ces compétitions en pleine saison, il n'y a pas que le fait qu'ils partent 3 matchs ou 4-5 matchs. Ils peuvent revenir blessés, c'est loin. Et en dehors de tout ça, c'est aussi émotionnellement. Ils peuvent revenir cassés émotionnellement parce que avec des défaites prématurées ou quoi.
Notamment les Marocains qui vont être chez eux, Naïf Aguerd, la pression qu'ils peuvent avoir, c'est vrai.
Il y en aura beaucoup, et même l'Algérie qui est très attendue aussi, du coup Amine Gouiri aussi, notamment, on peut y penser. On a vu Vaz être titulaire la dernière fois, c'est un vrai choix de...
De Zerbi, merci.
Qui a mis Vaz devant Gouiri, Gouiri qui rentre et qui marque derrière, il commence à prendre cette petite assurance, on va dire, mais... Demain, c'est des joueurs qu'on peut perdre.
C'est vrai. Mais je pense que le recrutement a été bien fait là-dessus parce qu'au-delà de la qualité, il y a eu de la quantité aussi. Et c'est que demain, un Naïf Aguerd qui va aller à la CAN, derrière, il y a du Pavard, il y a du Medina, il y a encore du Balerdi, qu'on le veuille
Medina
ou non.
Medina qui est blessé.
Medina qui est blessé, mais dans 3 mois, normalement, il sera revenu. Il a un mois et demi, normalement. Donc, mais il y a de la masse. Je veux dire, Gouiri, Aubameyang, deux attaquants concernés par la CAN. Il y a Vaz, il est capable de faire le job sur 2 ou 3 matchs. On l'a vu face à Metz, il a été très, très bon. Et au milieu, les Vermeeren, O'Reilly, Højbjerg, etc., ça peut faire le job. Moi, je vois pas de Yamed Traoré qui s'en ira aussi, mais il est doublé par Pachao, donc l'un dans l'autre, ça va aller. Je suis pas forcément inquiet, moi. Moi, je suis pas forcément inquiet là-dessus, à part grosse blessure qui peut être une tuile. Sinon, pour moi, ça va toucher tout le monde à son échelle et ça va aller sur la suite de la saison. Mais je pense que un Gouiri qui se fait éliminer en quart de finale de la CAN, s'il revient avec un 8e de Ligue des Champions à jouer, il sera quand même motivé pour le jouer. Je pense que si la saison en janvier ou février reste jouable sur des objectifs importants, c'est là où tu peux encore toucher les joueurs.
Merci Maxence. Salson, toi, qu'est-ce que tu en penses de Barcola, notamment sa prestation hier? On a vu hein, à un moment, il aurait pu changer le match avec son départ vers les cages, mais c'est souvent ça, Barcola. Quand il part seul au but, tu ne t'attends pas à grand-chose parce que ça finit toujours de la même façon, plus ou moins. En tout cas, on a pu le voir hier, la conduite de balle n'est pas bonne et la finition encore moins.
C'est sa façon de jouer. Hein.
Ouais, mais qu'est-ce que j'en pense?
Ça fait déjà un moment. Oui.
Barcola, après, il a des périodes un peu. Oui. C'est quelqu'un, je pense, il manque de confiance. Moi, pour moi, ça reste un très bon joueur et doté d'un énorme potentiel encore. Il est très jeune encore et il me rappelle un joueur qui est aujourd'hui Ballon d'Or, Ousmane Dembélé.
T'as raison, exactement.
À une période où Dembélé, on le voyait, on l'attendait, pas forcément même niveau que Ousmane Dembélé à son âge, mais on attend Barcola. C'est dans la finition, dans le dernier geste. En fait, ils sont capables du meilleur comme du pire et Barcola est dans ce truc-là. Et je pense qu'il devrait se rapprocher de Dembélé.
C'est pour ça que je m'inquiète pas, moi.
Non, moi, je m'inquiète pas. Ouais. Moi, je pense, après, il est jeune, il prend de l'expérience. Bon, ouais, il prend l'expérience. Bah oui, il est encore jeune. Mais je veux dire, ça, pour moi, c'est. Ça va. Moi, je pense qu'il va progresser.
Il
va
tourner en plus. Hein,
il manque de confiance. Je pense que quand il va commencer à mettre ce premier, deuxième but ou quelques passes décisives.
Comme beaucoup à Paris. Hein.
Oui, il a un manque
de problème. Quand l'équipe de France sont tous blessés.
Il a quitté le rassemblement. C'est pas très grave, je pense. C'est Thauvin qui reprend.
Ah, Thauvin, ça y est, reprend.
On va y revenir d'ailleurs. Ça,
j'ai pas vu cette info.
Mais pour moi, Barcola, c'est pas un titulaire au PSG. Si tout le monde est là.
Non, si tout le monde est là, c'est pas un titulaire.
Ah, parce qu'il y avait cette discussion entre Doué et
Varane. On l'a vu sur les gros matchs
l'an dernier. Il y a pas. Quand il arrivait, Vara, on savait tous que Vara était devant Barcola. On avait juste mal que Barcola passe sur le banc parce que Barcola il avait fait une bonne première partie de saison, elle était bonne.
Entre les deux,
elle était bonne. Mais Vara est devant.
Moi
je pense qu'il faut laisser le temps.
Barcola m'a déçu, c'est cette semaine, c'était leader d'attaque. Sur tes deux matchs. C'est censé tourner autour de lui. La confiance, il l'a. Parce que tout passe. Il joue devant avec Mbaye, Ramos, Mayulu. C'est lui le boss là-dedans.
Normalement.
Et il n'a pas répondu présent sur les deux matchs.
J'ai été déçu un peu parce que même face au Barça.
C'est Mayulu qui débloque la situation.
C'est même pas que Mayulu qui débloque la situation. J'ai l'impression que c'est plus Mbaye qui a pris l'initiative avec Mayulu. Et Barcola, il n'a pas fait ce que devait faire Mbaye ou Mayulu. Il doit le faire.
Il a été transféré.
Il est à gauche. Il a fait plus de différence. Il a fait plus de différence que. Que Barcola, sans peur.
Et quand
après, c'est l'insouciance. Après, c'est là, c'est l'insouciance.
Quand tu analyses le match de Koundé, pendant 60 minutes, il était tranquille.
Ah
il
avait Barcola dès que côté, Mbaye est passé
dès
à gauche.
Mbaye, il a été en grande difficulté.
Mais Barcola, pour moi, il est en manque de confiance. C'est
Barcola
tout.
Continue de faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire qu'il est très déroutant dans ses.
Ah oui, il arrive encore à faire des choses.
Il y a un blocage dès qu'il arrive dans la surface.
C'est du Ousmane Dembélé. C'est Ousmane Dembélé.
Barcelone, il a une magnifique occasion au pied gauche.
Ouais. Même hier, il a encore des.
Il y a sa contre-attaque.
Ah oui.
Il y a un vrai souci de finition à faire sur
ça, moi, je pense qu'il faut qu'il travaille. Moi, c'est un manque de confiance et un peu plus de travail dans le dernier.
Il a un profil qui reste super intéressant.
Ouais, oui.
Hier, la défense de Lille qui prend 20 mètres de recul à chaque fois parce qu'ils ont peur de la profondeur.
Il va très vite.
Si tu n'avais pas ce mec-là, Lille aurait pu prendre plus confiance, aller presser.
Après, il va très vite. Comme je dis, il est capable du meilleur comme du pire. C'est-à-dire que. Vraiment, quand il part de sa ligne, il part de derrière, et quand il y va lancer, c'est très dur de l'arrêter.
Un peu comme l'équipe qui joue Mbappé et qui va
reculer. Exactement. Après,
il est super sonique.
Ah oui.
On critique sa conduite de balle, mais à cette vitesse, c'est aussi très compliqué de garder une bonne conduite avec l'arrivée du défenseur derrière. Mais on est d'accord qu'il doit faire beaucoup mieux, à minima, rester sur son pied droit. Là, il s'excentre totalement sur son pied gauche et après, il est foutu, quoi.
C'est compliqué en tout cas. Merci messieurs.
C'est pour ça qu'on aime le foot.
Oui, c'est exactement ça. Lyon qui enchaîne les grosses performances, en tout cas qui a enchaîné les grosses performances jusque-là et qui se font surprendre tout simplement à domicile face à Toulouse et qui concèdent leur première défaite à domicile 2-1. Monaco n'ont pas réussi à s'imposer face à Nice malgré l'expulsion prématurée
d'un
Niçois avec beaucoup de pénalty.
Doublé dans ce Fati encore.
Oui, et encore un doublé d'Ansu Fati qui revient, qui est co-meilleur buteur de Ligue 1. Vanessa, qu'est-ce que tu en as pensé de Lyon et de leur prestation? Jusqu'à là, ça tenait avec des petits buts, 1-0. Oh là, ils ont tout simplement, ils se sont inclinés à domicile, 2-1 face à Toulouse en fin de match. Qu'est-ce que tu en penses des Lyonnais?
Je vais essayer de donner mon avis de néophyte. Mais ils ont enchaîné sur plusieurs victoires. Donc là, il y a peut-être eu un petit coup de mou. Maintenant, Lyon, ils étaient, me semble-t-il, un petit peu en difficulté ces derniers temps. Mais voilà, après, chaque match permet d'avoir... ce match-là, justement, ça peut être aussi une source d'enseignement peut-être encore plus forte que quand ils sont en réussite. et à voir ce qu'ils auront tiré de ça. Voilà, ça peut être aussi des points de travail, des axes de travail. Je sais pas ce que tu en penses, toi qui as peut-être un peu plus suivi la rencontre, mais parce que s'il faut aller sur le plan technique, là, je vais pas pouvoir. Mais en revanche, d'une manière générale, je pense que ces matchs ont toujours les échecs sont parfois plus instructeurs que les victoires, réussites, voilà.
Que les réussites. Donc, merci Vanessa. Voilà, bah, Lyon tout simplement qui devront en tout cas apprendre dans cette défaite. Tout
c'est ce genre de match qui à l'arrivée coûte cher sur l'ensemble d'une saison. Voilà.
C'est ça. C'est parce que c'est un match qui tenait. C'est un match à la mi-temps. Ils doivent rentrer avec deux buts d'avance même à la mi-temps.
À la mi-temps, ils doivent rentrer déjà. La saison qu'ils font, ils sont battus à Toulouse. Ils sont battus à domicile par Toulouse, 2-1. Ouais, ouais. Tu te dis, mais voilà, c'est donc ces petits matchs là.
Après, est-ce qu'il n'y a pas eu un coup de fatigue parce que ils ont joué cette semaine, ils ont fait une belle prestation cette semaine.
Non, mais c'est ça le paradoxe. Après,
ils n'ont pas un grand effectif cette saison.
Non, on sait que voilà, c'est de se remettre.
Mais ça commence bien. Franchement, parce qu'ils pour l'effectif qu'ils ont,
c'est quand même un juste retour des choses quand on voit les contenus un petit peu. Lyon depuis le début de saison, ça sortait bien sur beaucoup de matchs. La semaine dernière encore à Lille, ils gagnent 1-0, mais le plan de jeu c'était on marque avant la 20e et puis après on ferme et
ils sont un peu
parades de griffes.
Vu l'effectif, ils sont un peu.
Bien sûr, ils sont obligés de faire ça. Mais donc, pour moi, ça peut pas tenir. Tu vois, un Lille, un Monaco, Marseille, tu peux être plus exigeant avec eux qu'avec Lyon. Pour moi, Lyon, j'ai pas envie d'être exigeant avec eux. C'est déjà très bien s'ils arrivent à faire top 6, top 7. Il y a 3 mois, ils étaient en Ligue 2 et ils devaient jouer Rodez. Donc,
je suis d'accord avec toi.
Donc là, c'est déjà bien s'ils font 7, 8e. Ils ont un effectif comme super court. Ils arrivent à être dignes en Europa League aussi. Donc pour moi, c'est déjà très bien, faut pas non plus trop leur en demander, ils iront pas jouer le podium.
Et avec une présidente qui a remis de la sérénité dans le club. Ça c'est important. Ça c'est important. Ça c'est important, ouais.
Merci Philippe. Monaco, Théo, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, des Monégasques et de Ansu Fati, qui est co-meilleur buteur de la Ligue 1 aujourd'hui, avec 4 petites apparitions. Il est rentré en jeu 2 fois, il me semble, et il a été titulaire juste 2 fois. Est-ce que c'est la renaissance de Ansu Fati, on peut dire ça comme ça?
C'est clair que ça lui fait du bien de retrouver du temps de jeu, retrouver les terrains. Il est performant, on connaît tous son talent. Il est assez excellent, ce joueur. Mais plus que lui, je suis assez quand même mitigé sur Monaco. Enfin, par rapport à ce qu'on en attend, c'est vraiment en dents de scie, ça passe parfois par la fenêtre. Il y a une belle performance en Ligue des Champions face à City, mais sinon...
Et moi, j'ai entendu sur une télé, je crois que c'était Monaco Info, un des cadres de l'équipe monégasque, trouver qu'il y avait parfois un manque d'implication de son équipe sur les matchs précédents. Il avait piqué une grosse colère et il trouve que les joueurs sont pas toujours...
C'est sur la sellette, là.
Voilà. Et il trouve que parfois, il y a un manque d'implication sur certains matchs de cette équipe de Monaco. Alors, on sait que la vie est belle à Monaco.
On peut se poser la question de est-ce que les joueurs n'ont pas lâché le coach.
Pour lui, il y a certains joueurs qui... qui mouille pas le maillot suffisamment.
Justement, le cadre à Monaco, c'est tout bon ou tout mauvais. Si les mecs n'ont pas le professionnalisme pour se mettre des exigences, c'est pas l'entourage et les supporters, etc., qui vont leur mettre l'exigence. Mais d'un autre côté, pour un joueur comme Ansu Fati, qui a justement souffert de cette pression-là au Barça, le numéro 10, exactement, l'héritier de Messi, tout ce côté-là, à mon avis, il a souffert physiquement avec des blessures, mais aussi mentalement, ça n'a pas dû être facile d'accueillir toute cette pression-là. Et là, du coup, il se retrouve à Monaco dans un cadre où personne ne lui demande grand-chose. Rentre, fais tes matchs, et puis de toute façon, tu peux le lendemain aller acheter ton pain, aller au resto, il n'y a personne qui t'embête. Je pense que ça lui sert bien. Et d'ailleurs, Ansu Fati, il a battu un record, je crois, qui date de 1927. Il a mis ses 4 ou 5 premiers buts en 120 minutes de jeu. C'est exceptionnel niveau ratio. Après, de là à dire que c'est une renaissance, je pense que c'est un peu tôt. Sur ces 5 buts, il y a quand même 3 pénaltys. S'il peut reprendre confiance.
Ça fait du bien aux joueurs. À Monaco, et aussi au championnat de France, parce qu'en Ligue 1, on n'a pas non plus l'habitude d'avoir des super grands joueurs comme ça, des bons prospects, donc ça fait aussi du bien au championnat d'avoir des joueurs comme ça qui peuvent procréer.
Et puis se relancer en un an ou deux et aller sur un autre grand club après, ça peut être...
Mais c'est vrai que Monaco, c'est un club très inconstant depuis 2 saisons.
Depuis des saisons, ça fait...
Au moins, c'est constant depuis 2 saisons. Avant, c'était plus bas.
On sait à peu près à quelle place ils vont finir déjà à la fin du championnat.
Troisième, quatrième.
Cette année, je ne pense pas.
Troisième, quatrième, par là. Tu le vois.
Déjà pas deuxième, ça, c'est sûr. Même troisième place,
mais regarde,
je
ne
suis pas sûr.
Ils font des 4-5 depuis quelques années.
Oui, mais c'est pas ça. Non, mais c'est parce qu'ils ont cette...
Mais
en championnat,
d'habitude, je les trouve un peu plus forts quand même.
L'année avec Ben Yedder. Ah,
là, ils ont Zakaria. Depuis que Zakaria est blessé. Là, j'attends de voir parce qu'il y a. T'as Zakaria.
Il n'y a pas beaucoup de haut quand même. Il y a pas mal de bas, mais j'ai vu peu de haut.
Ils ont perdu Ben Seguir. Et t'as Cliouche, comme j'ai dit la semaine dernière, qui est un peu en dedans. Et t'as Zakaria qui est absent.
Birette, comme est plus une dedans.
Et Zakaria, il est un peu il est absent. Là, tu vas voir, là, après la trêve, il y a clairement Paul. Il ne sera pas à son niveau à 100%, mais qui va faire son retour. Ça, c'est une petite anecdote quand même.
Ça oui, ça se regarde.
Ça se regarde.
Après,
ça fera toujours du spectacle en Ligue 1. Ça fera des joueurs historiques. Mais
j'ai du mal à y croire, malheureusement.
Moi, j'y
crois. C'est un pari risqué.
C'est tout. Il n'y a rien qui gagne. Mais personne ne s'attend à.
C'est exactement ça. Personne
ne
s'attend à ce qu'il redevienne le Paul Bourgeois.
On espère tous. On espère tous.
Exactement.
On espère tous. On verra bien.
Il rejoue au foot, il est déjà bien.
C'est ça.
Et on lit bien en dessous Fati, on sait qu'il y a déjà eu énormément de blessures. Hein, qui a commencé aussi très tôt le football, hein, qui a été mis au top niveau très tôt.
Au même âge que Yamal, je crois.
Oui, même 16, un peu avant. 16, 15 ans. 15 ans. Oui, lui,
éligible,
premier match très.
15 et quelques jours.
Ouais, quelques 15 ans et quelques jours. En tout cas, ça comptait jusqu'à quand il avait 16 ans. Quoi. Et on le lançait déjà dans ces matchs-là. Et je pense que cette surcharge-là l'a pesé aussi.
Ça aussi, on en débattra un autre jour peut-être. Mais le fait de lancer des jeunes de plus en plus tôt, ça va faire mal aux carrières. Hein. Mmh. On voit les mecs qui ont commencé tôt, les Cesc Fabregas, Hazard. C'est des mecs qui ont eu des carrières jusqu'à 31, 32 ans.
Paul Pogba, Pogba au final.
Un Yamal, je ne suis pas sûr que dans 15 ans ou 20 ans, il brillera encore. Peut-être que ça va être des nouvelles carrières qui vont faire 16, 31, 16, 32.
Je posais la question à Philippe. Pelé, il a joué jusqu'à quel âge?
Pelé, il a joué jusqu'à 35, 36 ans.
Il a
fait 100 tours. Il a fait 100 tours, c'est après les USA. Hein, donc voilà.
À l'époque, aux US, ouais, ça joue en marche.
Mais c'est vrai que.
C'est pas la même période.
Moi, je suis d'une époque où je me souviens que quand Laurent Paganelli il est rentré sur le terrain à 17 ans, c'était un événement. C'était un événement.
Ouais, mais attends, c'est lambda aujourd'hui.
Qui jouait en D1 à l'époque, à 16-17 ans.
Et au final, Paganelli n'a pas fait une longue carrière.
Il n'a pas fait une longue carrière. Aujourd'hui, bon, c'est fréquent.
Un maillot lourd, un PSG.
Les joueurs, ils rentrent sans compte.
Et t'as le petit jeune qui joue à Lille, au Boadi.
Ouais, après, ça c'est différent. Non, mais le mec de 18 ans.
Non,
mais il a commencé à 17 ans.
Je pense qu'effectivement.
Il n'a pas autant les clés qu'aujourd'hui, quand même.
Voilà, exactement.
Il y a des gens, on leur fait beaucoup plus confiance.
Non mais je pense que les joueurs aujourd'hui sont hyper bien préparés psychologiquement, physiquement, et que des joueurs qui vont rentrer dans des carrières très tôt, c'est fréquent dans le foot et dans tous les sports. C'est vrai que la durée.
Ouais, il y a joué et joué.
Ils vont être au top, je pense, pendant 10 ans, mais peut-être pas pendant 15 ou
20. Non, je pense que vers 30 ans, ça va être compliqué.
Parce qu'un Mayulu joue au PSG. Mais il joue 30 minutes.
Un Yamal.
Un Yamal, l'année dernière, il joue tous les matchs. 90 minutes. Il sort jamais. La sélection. La sélection, la Ligue des Champions.
Tout passe par lui.
Ouais, mais bon.
Et ça, pour moi, c'est dangereux.
Pour moi, c'est très dangereux. Le type, on le voit déjà sur des.
Mais le phénomène, il est.
Ça, c'est en dehors des terrains. On le voit sur des polémiques.
Oui, mais c'est pareil.
Normalement, ça, c'est des trucs qu'on entend sur des joueurs de 27, 28.
Oui, mais c'est pareil. Ça pèse.
À l'arrivée, ça pèse. On l'a avec Neymar. On l'a avec Neymar ou Robinho, des joueurs. Bah, ça, c'est plus des joueurs type brésiliens. Mais...
Malheureusement, je crois qu'aujourd'hui, dans le foot, de plus en plus tôt, on rentrera. Il n'y a pas de complexe aujourd'hui. Hein. Les jeunes, ils ont d'une maturité jeune. Il n'y a aucun complexe. Hein. Se rappelle quand Thierry Henry et Trezeguet, ils ont tiré les pénaltys en 98.
Après, on parle pas de ça. Mais
tout jeune, il n'y avait aucun problème.
Aujourd'hui, tu as plus de matchs, tu as plus d'intensité, tu vois ce que je veux dire.
Sur plan physique.
Sur plan physique, on ne parle pas forcément. Oui, Vanessa.
Mais mentalement, ils ne vont pas craquer sous l'événement. Hein.
Ouais. Et je me demandais justement, est-ce que l'intensité qui me semble c'est fortement accrue sur les saisons qui sont beaucoup plus chargées, est-ce que ça peut-être aussi ça joue pas beaucoup, est-ce que
ça joue.
Comment vous l'analysez?
On l'a vu avec le PSG de toute façon, Paris Saint-Germain qui a fait toutes les compétitions
et qui finit avec combien
de joueurs blessés aujourd'hui. Fermière, elle est remplie.
Et cette gestion là elle a forcément des incidences sur les performances, sur tout un tas de choses. Parce qu'aujourd'hui, pour tenir une saison, c'est un truc
Qu'il soit blessé à l'arrière, c'est pas grave. Par contre, j'espère qu'ils vont revenir vite. Parce que si la blessure, elle perdure toute la saison, ça va être plus compliqué.
Bah là, j'ai l'impression qu'Enrique, il a quand même une bonne gestion de son effectif. Même les jeunes, il arrive à les intégrer. Et même les jeunes, ils sont quand même assez haut niveau, je trouve.
Puis l'objectif, c'est encore d'être en course en janvier. Voilà. Oui, si t'es top 3 Ligue 1 en janvier et que t'es qualifié pour les 8e,
commence en janvier.
Mais par contre, si au mois de janvier, t'as les 2-3 titulaires qui ont encore des petits problèmes.
Là, ça devient problématique.
On parle des jeunes, et Vanessa a raison de le dire, les saisons sont de plus en plus longues, c'est très physique. Ça pose aussi des questions, puisque les jeunes joueurs rentrent de plus en plus tôt sur le terrain. à 16-17 ans, certains joueurs n'ont pas encore fini leur croissance, bien des sûr. Choses comme ça. Là, on voit par exemple Yamal commence à traîner sa pubalgie. Ça commence à faire quelques semaines qu'on en parle.
Ça commence.
C'est une blessure sérieuse pour un joueur. Ça peut traîner en longueur et ça peut fortement affecter une carrière.
Si c'est mal guéri, c'est mal
équipé. C'est souvent des mecs qui ont commencé très tôt. Verratti avait eu pareil. Exactement. Parce que Verratti, excusez-moi, à 17 ans, il était déjà sur le terrain.
Exactement. Excusez-moi de vous interrompre. Il faudrait juste qu'on poursuive tout simplement l'émission. Hein, on sait, hein, c'est ça, les passionnés de football. Hein, dès qu'on commence un sujet, bah, on peut en parler pendant des heures et des heures sans s'arrêter. On va se faire une petite virgule avant de revenir avec la Ligue des Champions qui est de retour au Vélodrome.
Quelle belle semaine.
Oui, quelle belle semaine de football, en tout cas. Surtout pour le football français.
Oui, promis un indice UEFA.
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, Philippe. C'est très important en tout cas, il faut le rappeler. On y revient de suite, juste après la petite virgule. De retour dans les locaux de, j'allais dire, de mon Paris FM.
De Meudon.
De Meudon, ouais. Tout simplement, de Meudon. Voilà. Du coup, on va enchaîner avec la Ligue des Champions. Maxence, je vais te laisser l'honneur de commencer hein, avec Marseille qui se sont imposés face à l'Ajax. 4-0. Marseille, tout simplement, qui ont été trop forts, juste. Et l'Ajax qui ont été aussi très faibles, qui ont été inoffensifs, vraiment, qui n'ont jamais inquiété, il faut le dire. Hein. Dès le début du match, tout simplement, Pak Chao a fait un petit défilé. En tout cas, il a mis un doublé très rapidement avant que Greenwood, Aubameyang aussi inscrivent 4 buts en tout pour Marseille. C'est un très bon score et aussi 4-0, c'est ce qui va aider parce que la différence de but va énormément compter aussi dans ce classement-là futur. Qu'est-ce que tu en as pensé de la prestation des Marseillais au Vélodrome et de ce retour aussi ?
Alors moi, j'avais dit la semaine dernière que si l'OM voulait espérer quoi que ce soit en Ligue des Champions, il fallait absolument gagner ce match-là. Parce que l'Ajax, c'est une des équipes les plus faibles qu'il y a au menu. C'est à domicile, retour au Vélodrome après des années d'absence en Ligue des Champions. On sait ce que ça représente pour les Marseillais. On a vu l'ambiance qu'il y avait énorme. Et ce match-là, si tu passes à côté, ta Ligue des Champions, elle est quasiment terminée. Tu es à 2 matchs, 2 défaites. Derrière, il va falloir se déplacer, il va falloir recevoir Liverpool, aller à Newcastle. Ça va être compliqué. Donc, pour moi, c'était vraiment déjà un rendez-vous. Et je pense que le match au Bernabeu a servi déjà parce que les Marseillais se sont dit « Ok, on a quelque chose à faire. On n'est pas ridicule. Notre place, elle est là. Elle est en Ligue des Champions. On a quelque chose à faire. » Et c'est vrai que l'adversité n'était pas énorme. Mais l'Ajax, ça reste une équipe qui est top 3 de son championnat en Eredivisie encore à l'heure actuelle, qui avait pris 2-0 par l'Inter, dernier finaliste en titre. Donc bon, à mon avis, l'OM n'avait pas non plus, ne partait pas non plus… en étant assuré de gagner, surtout quand on connaît le passif récent de l'OM en Ligue des Champions. Donc pour moi, la performance, elle est surtout là, elle est surtout mentale. Et après, oui, quand le match démarre très bien comme ça, avec un doublé en 12 minutes, le stade prend feu, on se dit qu'il peut pas arriver grand-chose à l'OM ce soir-là. Mais au moins, l'OM reste dans les clous, dans le milieu du classement, 12e, je crois, et garde toutes ses chances pour la suite avec deux prochains matchs qui, pour moi, seront importants. Sporting Atalanta, qui sont des équipes plutôt équivalentes à l'OM, dans les mêmes eaux, je vais dire, et qui sont jouables. C'est des matchs qui démarrent.
Aller au Sporting, c'est compliqué quand même. Hein.
Bien sûr, c'est compliqué, mais après, en Ligue des Champions, tout est compliqué.
Évidemment,
hein,
évidemment.
C'est vrai que c'est jouable.
Aller là-bas, ça reste jouable, évidemment.
C'est pas Liverpool, Barça, Real. Non. C'est des équipes qui sont dans le giron de l'OM, dans le ventre mou de la Ligue des Champions. Là.
Ça, c'est niveau Ligue Europa, à la base.
Non. Sporting, c'est champion du Portugal. En aucun monde, c'est Ligue Europa.
Et alors mais...
Et alors non,
non mais avec
alors,
ce nouveau format,
ou alors la Ligue des Champions, on part du principe que c'est 5 équipes.
Mais si on parle de...
Mais non, mais même dans l'ancien. Le champion du Portugal, il est toujours qualifié.
Ce qu'ils ont fait en Ligue des Champions, ils ont plus de chances de faire quelque chose en Ligue Europa qu'en Ligue des Champions.
Oui, mais ça jouait les poules.
Oui, mais alors à ce moment-là, tu prends 5 équipes en Ligue des Champions. Il y a Barça, Real, Bayern, PSG, Liverpool.
J'ai le droit de donner mon avis quand même.
Bah non, mais ton avis est pourri. La Ligue des Champions.
Mais excuse-moi Maxence, mais avec respect.
La Ligue des Champions, ancienne version, c'était 32 équipes. Dans ces 32 équipes-là, le champion du Portugal a sa place,
faut
je suis désolé.
Faut pas attaquer Marseille avec lui, attention.
Non, mais t'attaques pas Marseille, t'attaques le Sporting, là.
Non.
Si on enlève le champion du Portugal avec des champions, on fait avec des champions entre 3 équipes de PL, 3 équipes de Liga, le PSG, le Bayern, et c'est très bien. On fait un Final 8, tous les 8, on se retrouve à Los Angeles, on fait un truc.
Merci Maxence. Philippe, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de Marseille
qui Marseille, je pense que c'est à l'image de ce bon début de saison. On en parlait, bon, qui bat l'Ajax. Bon, même si bon, le football hollandais, c'est quand même pas le meilleur des championnats. Hein, donc, qui battent l'Ajax. Bon, par contre, c'est peut-être l'ampleur. 4-0, c'est bien. C'est un beau carton. C'était peut-être pas évident de battre l'Ajax 4-0. Mais je pense que, bon, oui, c'est à l'image de ce bon début de saison des Marseillais. Et effectivement, les deux matchs qui vont arriver face à des équipes moyennes de Ligue des Champions seront effectivement important. Mais que Marseille batte l'Ajax, pour moi, c'est pas une surprise. Hein. Après, l'ampleur du score, oui, 4-0, là, ils ont fait le job.
Oui, c'est ça. C'est l'Ajax, j'étais quand même surpris de la faiblesse de l'équipe. Hein. Oui, on est loin, on est loin de 2019, on est loin du Ziyech, de Young, etc. Mais,
dit.
Mais tout de même, 4-0, c'est pas rien. Ça permet aussi de faire plein de confiance. Hein.
Surtout ça. Ouais.
Un match prenable où tu es largement au-dessus, tu gagnes pas tous les jours 4-0.
Surtout en Ligue des Champions.
En Ligue des Champions. Voilà.
Oui, non, donc, c'est pour ça que.
Ça met sur la bonne voie et il y a deux matchs abordables qui arrivent, en effet. Il faudra les gagner ou à minima faire nul là-bas. Mais...
C'est à l'entame de leur saison. Pour
exactement.
Ouais. Et surtout que le Real, bon, ils ont été battus, on l'avait dit, sans démériter, loin de là. Donc, non, c'est bien.
C'est bien pour le foot français.
Oui.
Merci, Théo. Mbappé, qui a inscrit un triplé, et qui c'est le Real qui sont imposés Kerat Almaty. C'est ce qu'on disait un peu. Il sourit
la semaine
doucement.
Dernière, on m'avait dit c'est un match piège.
À quel moment j'ai dit ça? J'ai dit ça peut être des matchs.
Ressortez les bancs.
Ressortez les bancs. Allez écouter le podcast dernier. J'ai dit, et je le répète ici, j'ai dit ça peut être un match bizarre, mais le Real va gagner.
C'est pas bizarre.
Ça peut être bizarre.
Joue une équipe qui a niveau N2, c'est pas bizarre.
Mais regarde, j'ai bien dit pour Monaco. Si Monaco, faut pas les enterrer. Il y a eu combien?
Moi, je suis content parce qu'Mbappé, il a retrouvé le sourire. Il a retrouvé la joie de jouer. Ça, c'est important.
Bah, il se remet à jouer comme il jouait avant.
Exactement.
Mais
il souriait plus sur le terrain. Il souriait plus en 2020.
Il a dit la phrase qu'il fallait.
Ouais, ouais, il redécroche plus incessamment pour aller embêter ses milieux de terrain.
Il s'en
va
pas
prendre le jeu à ce moment.
Il prend la
profondeur. Il joue avec ses milieux.
C'est là où il est le meilleur.
C'est tout bête. C'est comme ça. Il y a peut-être un déclic qui s'est fait cette année.
Le juste Real Madrid s'est fait remonter.
Oui, puis il a retrouvé l'enthousiasme.
Moi, je suis pas sûr.
T'as dit la bonne phrase.
Oui, c'est vrai. Il accélérait. Des fois, tu sentais qu'il.
Après c'était un peu bizarre parce qu'il n'avait pas fait de vraie prépa, le transfert,
sa petite coupure,
il est bien dans sa tête, il est
bien. Oui, c'est peut-être mieux aussi là, il est un peu entre guillemets débarrassé des soucis qu'il avait avec le PSG.
Je pense qu'il y a tout.
La saison dernière, ça a été compliqué, il y avait cette pression aussi, hein, c'est
pas compliqué, mais il t'en met 40 quand même.
Il met 48, mais pardon, le jeu du Real Madrid n'est pas.
Il met 40 buts, mais même cette saison, si je continue à jouer comme ça et qu'il en met 35, sa saison elle est largement meilleure que l'an dernier.
Oui,
l'an dernier,
il t'en met 40. Mais c'est pas pour toi qu'il t'en met pas 40. Ça veut dire qu'il est faible, il est faible mentalement. On le voit pas à son meilleur niveau de jeu, mais t'en mets 40. Mais c'est fort pour te dire.
Il faut dépasser le prisme du but absolu, c'est-à-dire que c'est génial d'avoir par exemple un Haaland, un Gyökeres qui met 30 buts dans la saison, mais lui tu lui demandes pas de participer au jeu.
Non mais quand je dis ça c'est dans le sens,
t'as quand même besoin de lui sur les ailes et tout, et je trouve que tactiquement il a été un poids pour le Real Madrid l'année dernière, en tout cas.
Bien sûr
il met des buts, évidemment il les sauve sur des matchs de Liga, etc., mais quand on voit son apport notamment en Ligue des Champions, c'est là où on l'attend, hein. C'est un Mbappé,
sur les gros matchs de Liga, mais on verra encore cette année.
Exactement,
parce que
on sait pas encore
un
faire.
Peu emballé sur le début de saison, le match de l'Atlético m'a refroidi, donc là je
le Real est loin d'être soigné. Le Real est loin d'être soigné.
Je suis un peu plus prudent sur la suite et j'attends de voir sur les gros matchs. Exactement. Est-ce que le Real me répondra.
Rendez-vous le 26 octobre.
C'est déjà une première étape.
En tout cas, voilà.
C'est contre qui
en est pour le Real Madrid, le Paris Saint-Germain qui sont imposés à Montjuïc, tout simplement. 2-1 avec tout simplement les Titi. Hein,
ils ont vraiment gagné en maturité. Hein. Ah ouais, ça je pense que c'est. Ah oui, parce que. Non mais c'est vrai, écoute, ils ont été dominés les 20 premières minutes et après cette équipe sans s'affoler. Avec, avec des titulaires qui manquaient, elle est revenue dans le match et elle a complètement pris le dessus.
Totalement raison.
Je pense qu'elle a vraiment acquis, depuis son titre de champion d'Europe l'année dernière, cette maturité.
Même avant le titre, on l'a vu de Liverpool. On l'a vu de Liverpool que le
Oui.
Non, mais il y a 2-3 ans,
Aston Villa, t'es pas bien quand même. Hein.
Aston Villa, t'es pas bien.
Sauvetage de Pacho.
Je dis pas le contraire.
Pendant 20 minutes, parce que Aston Villa, t'as l'occasion plusieurs fois de clouer
le
match avec
toi.
Et tu le fais pas.
Mais t'as 20 minutes où c'est vraiment le feu avec le sauvetage de Normand.
Liverpool, on a vu que cette équipe était capable quand même d'avoir cette maturité de conserver les matchs.
Il y a 2-3 ans, pardon, le PSG perd ce match à Barcelone. Oui. Il y a 2-3 ans, Paris perd 2 ou 3-0.
Liverpool, je t'ai dit, le perd.
Je pense que même le déclic est un peu plus tôt même dans la saison. Je pense que c'est face à Manchester City.
Face à Manchester City.
Quand tu perds 2-0,
c'est face à Manchester City.
Tu reviens là et tu gagnes, tu t'imposes.
Tout part de là.
Avec plus de 2 buts d'écart.
Mais ça, tu sais, je la prends pas comme référence ce match-là parce que j'ai comme une impression que ce City-là, on savait qu'il était déjà malade. Je t'ai pas dit c'est de la chance ou quoi, mais je te dis, c'est un fait de match qui, bon, je sais pas, le PSG a surfé sur un fait de match. Là, Liverpool, là, tu vois vraiment la confirmation que ce Paris Saint-Germain, tu pouvais faire confiance à cette équipe-là, mais les autres années, des matchs comme Liverpool, tu le perds. Aston Villa, tu perds. Arsenal. Je ne suis pas sûr que tu le gagnes.
Bah, les premières minutes au parc, tu prends au moins un 2 buts.
Tu vois ce que je veux dire.
Sans
Donnarumma. Et Barça, comme tu l'as dit,
je pense
tu
qu'on perd
aussi.
Minimum.
Donc tu vois que voilà, cette équipe-là.
Il y a eu une seconde
mais
mi-temps.
Mais après, encore un nouveau cap.
À Barcelone, la seconde mi-temps, ça a été assez impressionnant.
Impressionnant.
Parce que
Paris a rééquilibré les débats en fin de première.
Oui, voilà.
On les a sentis mieux.
Il y a eu 20 minutes difficiles.
Exactement. On prend l'eau totalement. Et deuxième mi-temps, notamment Vitinha remet le pied sur le ballon, il remet sa tête à l'endroit. Et là, vraiment, le PSG se remet en marche.
Et Yamal est inexistant.
C'est assez impressionnant. Il a été magnifique pendant les 3-4 premières minutes. Magnifique ouverture de l'extérieur. Et puis sur après, quasiment but avec le sauvetage de Zabarni sur la ligne.
Après,
mais
pour moi, forcer sur une pubalgie, c'est vraiment
c'est,
pas
c'est ça aussi.
Du
hein.
Et
ça se voit.
Il n'a pas joué hier contre Séville. Il ne va pas faire le rassemblement en Espagne.
Exactement.
Le faire revenir le plus tôt possible. Et ils vont sûrement refaire la même erreur pour le faire revenir pour le Classico le 26.
Surtout
et pour
que
moi, ce serait n'importe quoi. Parce que c'est pubalgie, faut que soit opérer.
Surtout que
soit
c'est
attendre deux
qu'un
mois
match. C'est qu'un match de groupe. C'est pas un match coup près comme l'année dernière par rapport à City.
On s'en fout.
C'est qu'un deuxième match de groupe. Barcelone va évidemment, je pense, se qualifier. Ils ont un groupe abordable en plus. Enfin, ils ont des matchs abordables, pardon. Ils vont se qualifier.
Ça me fait penser à Zegrova qui a eu sa pubalgie, qui a qu'elle s'est traînée. Et Zegrova, c'est un super joueur que moi, je kiffe. Mais malheureusement,
Kaka aussi.
Exactement.
Sa pubalgie.
Zlatan qui avait eu ça aussi.
Mais ça, moi, ça demande du repos.
Yamal, conseiller, je lui dirais jusqu'à décembre, tu joues plus. Tu laisses passer et en janvier, tu reviens. Grosse fin de saison, la Coupe du Monde, la Ligue des Champions et on verra ce que c'est. Mais là,
ça sert à rien de le faire revenir pour un match précis en le faisant passer pour un héros en disant faut qu'il joue ce match.
Surtout
c'est hyper important.
Pas à 100%,
c'est pas une demi, c'est pas une demi de LDC quoi. C'est pas une demi de LDC. Ouais.
En tout cas,
je me permets juste de rebondir sur ce que vous disiez. D'une manière générale, quand on fait traîner des blessures des joueurs, ou enfin quel que soit le sport, c'est une catastrophe parce que ça a non seulement des effets à court terme, mais aussi moyen et long terme. Et quand il y avait eu un reportage, me semble-t-il, sur l'équipe il y a quelques mois, justement sur les blessures et quelle est l'incidence en fin de carrière et après. Et ça, c'est enfin pour moi, c'est juste pas possible. Bien sûr, il y a les enjeux, tout ce que vous voulez.
Comme Dimeco.
C'est pour moi, c'est la cata. Ça, c'est vous pénalisez le joueur, c'est plus que pénaliser, vous voyez, vous le mettez en souffrance.
Reportage très intéressant sur l'équipe, sur les conséquences. Je l'ai vu.
Notamment le rugby, mais pas que. Enfin, je me rappelle, j'avais suivi cette émission.
L'athlétisme aussi.
Ouais. L'athlétisme, et puis même des. Voilà, voilà.
Oui, oui, oui.
Et des conséquences qu'il pouvait y avoir, notamment avec des crises d'angoisse après leur carrière. Et tout ça était dû au choc qu'ils avaient pris, en fait. Mais ce que je disais tout à l'heure sur l'intensité des saisons et puis la pression qu'on met aussi parce qu'il y a des enjeux sportifs, financiers, tout ça, bah au final vous faites jouer un joueur, il n'est pas totalement guéri, donc vous prenez le risque d'aggraver sa blessure quoi, et qu'il ne revienne pas au top. Donc voilà, moi c'est mon avis d'une manière générale sur le sport, mais sur le foot ça s'illustre particulièrement. Donc voilà, espérons qu'il va pouvoir y avoir une meilleure gestion de tout ça. Mais je sais que c'est une illusion.
Dans le foot moderne, dans le foot actuel.
Merci en tout cas Vanessa pour ces conseils. En tout cas pour les clubs aussi qui peuvent entendre parler de tout ça, ils le savent. Mais bon, ça fait partie un peu du business.
Tellement de matchs, il y a tellement d'intérêts.
Il y a trop d'enjeux financiers. Hein.
Je pense que la Liga mettra la pression pour que Yamal soit là pour Barça-Real dans 20 jours. Sinon, le match se vend moins, c'est pas la même saveur.
C'est vrai. Mais je voulais revenir sur quelques petites choses. Salson, on a beaucoup dit, on a envoyé les titis parisiens pour Barcelone. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ces jeunes qui ont tout simplement... deuxième période, en fait, le Barça n'ont pas vu le jour. Ils n'ont pas vu le jour, tout simplement. Yamal non plus n'a pas vu le jour. Nuno Mendes, homme du match, qui a tout simplement pocket Yamal, hein, tout simplement.
Ah, il a pocket, mais les 10, 15, 20 premières minutes, attention, Yamal a été très, très dangereux. Je me suis
dit, il peut prendre rouge, Nuno Mendes, ouais, avec
prendre,
un autre arbitre.
Il peut prendre rouge, ouais. Et je me dis, Yamal, il va nous porter... il va nous faire mal aujourd'hui. Mais après, le Paris Saint-Germain a réussi à rééquilibrer ce match, surtout Nuno Mendes qui nous fait un match incroyable, qu'il soit derrière ou devant, ouais, franchement c'était fort. Et après pour ce qui est des jeunes, franchement je suis très content parce qu'on sent que Enrique, déjà on voit le travail d'Enrique parce que c'est un travail, c'est pas, on les a pas mis là comme ça et ils sont partis jouer au football, c'est que ils sont adaptés à l'effectif. Mayulu depuis la saison dernière il fait quelques entrées, ça veut dire il avait déjà un peu cette expérience de la Ligue des Champions. Il avait moins de pression et Mba il est en train de prendre le même rôle que Mayulu avait la saison dernière. Donc ça fait que ces joueurs-là, quand ils arrivent, ils sont au rendez-vous, ils jouent avec des champions tous les jours. Ils sont au quotidien avec des champions, un grand entraîneur, un grand club. Donc ils arrivent à faire la différence et ça fait plaisir. Mayulu, franchement, très très bon match et j'ai bien aimé son rôle.
Faux numéro 9.
Ouais. Je disais même, je regardais avec des amis, je leur disais carrément que... On retrouve un peu de Ousmane Dembélé dans le style de jeu. Je ne dis pas qu'il jouait comme Ousmane Dembélé, mais dans le style de jeu, ne dis pas non. Parce qu'il jouait bien dans les pieds, il arrivait à combiner, etc. Et il marque un but en plus. On ne l'attendait pas dans ce rôle-là. Et tu as Mbaye aussi qui a fait plus de différence que Barcola, on l'a dit tout à l'heure. Mbaye qui a fait vraiment, voilà, et qui a fait une très belle prestation. Je pense que c'est son plus gros match. Ça peut être un match référence pour lui et ça peut le mettre en confiance. Et ils avaient déjà aussi fait leur preuve aussi contre Auxerre. Où il y avait pas mal le samedi avant de jouer le Barça, il y avait pas mal de Titi qui avaient joué, ils avaient répondu présent, comme notamment, j'ai oublié son nom,
Djantou,
qui t'a fait beaucoup de mal aussi en jeune, rentré, ouais. Toi qui as coaché le CA Vitry.
Djantou, on l'a vu jouer en U11 déjà à l'époque, U11, au PFC.
À l'époque,
il faisait déjà très mal. Et ce petit, moi, quand je l'ai vu entrer face au Auxerre, j'ai tout de suite aimé parce qu'on a vu qu'il avait un gros volume de jeu et qu'il n'avait pas peur de demander la balle dans les pieds et de combiner. Donc, ces joueurs sont prêts psychologiquement, techniquement et physiquement, j'ai envie de dire.
Merci, Salson. Voilà, on rappelle le Paris Saint-Germain qui sont imposés 2-1 à Montjuïc, tout simplement face au FC Barcelone, avec les hommes de Luis Enrique, tout simplement, qui ont fait le boulot. Liverpool qui ont tout simplement perdu à Galatasaray. On sait que c'est jamais tâche facile de gagner en Turquie, surtout dans les ambiances chaudes en Ligue des Champions. Philippe, qu'est-ce que tu en as pensé de la prestation des Reds à Galatasaray?
Bon, je t'avouerai que je n'ai pas vu le match, mais enfin bon, je pense qu'il ne faut pas trop prendre d'importance. Bon, comme tu le dis, aller faire un match et aller faire un résultat à Galatasaray en Turquie, c'est toujours un contexte un petit peu particulier. Bon, après, Liverpool, c'est un petit peu comme le PSG la saison dernière. Ils ont peut-être des objectifs un petit peu plus lointains. Donc, il ne faut pas trop, dramatiser cette défaite de Liverpool. Voilà.
En tout cas, en Ligue des Champions.
Oui, en Ligue des Champions, on parle naturellement. Oui, oui.
Pour l'instant, en Ligue des Champions, oui. Merci.
Championnat anglais, c'est différent.
Merci, ouais. Philippe. Théo, Monaco, tout simplement, miraculé ou non, mais qui ont tout simplement tenu en échec Manchester City et qui les ont piégés à la 90e minute. C'est ce que Salson disait la semaine dernière. Attention à Monaco. Monaco peuvent piéger Manchester City et c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette prestation? On disait qu'il faut faire attention avec les Monégasques. On a vu qu'ils ont infligé une défaite au Barcelone l'année dernière. Là maintenant, avec Manchester City encore, Stade Louis II commence aussi à prendre un peu de valeur en Ligue des Champions.
Oui, c'est bizarre d'ailleurs qu'un stade si inerte entre guillemets ait autant de valeur en Ligue des Champions à domicile pour Monaco. Plutôt une belle performance d'équipe, hein. Ils créent la surprise, ils avaient aussi besoin de ce point mine de rien parce que faut que ça lance leur Ligue des Champions, ça peut aussi
surtout après Bruges, hein.
Exactement, lancer aussi leur saison entre guillemets, bien sûr. Alors oui, je pense qu'ils sont quand même miraculés, hein, parce que bon, avec ce penalty dans les derniers instants, mais faut le mettre, faut marquer ce penalty,
et pas une super grosse faute en plus
aussi. On va pas non plus se plaindre que l'arbitrage soit entre guillemets en faveur un petit peu de la France de temps en temps, surtout quand il y a des gros en face. Donc ça fait aussi douter Manchester City et c'est pas plus mal pour Monaco qui lance un petit peu sa saison.
Merci Théo. Atlético de Madrid qui sont imposés face à Francfort, 5-1. C'est une formalité un peu, on peut dire ça comme ça, Maxence ?
Ouais, une formalité. L'Atlético qui a surfé sur sa belle victoire dans le derby trois jours après en allant gagner contre Francfort. Donc très belle équipe avec un Julian Alvarez qui marche encore sur l'eau. Après moi, ce format de Ligue des Champions, plus globalement pour les grosses équipes, il m'intéresse pas énormément parce qu'on l'a vu l'an dernier, le PSG qui perd face à Arsenal, qui perd face au Bayern et qui recroise Arsenal 6 mois après et qui gagne sur le match qui compte. Donc moi, c'est vraiment pas ces équipes-là qui m'intéressent. Ça a pu être les équipes milieu de tableau où là, on se pose question vraiment et chaque résultat peut mettre en péril la qualification ou non. Sinon sur le Barça, PSG, Real, globalement on sait qu'ils vont y être et au pire des cas, s'ils se ratent complet, ils devront passer sur un 16e de finale. Mais en aller-retour face à la Saint-Gilloise, je pense que ça ira pour le Real, ça ira pour le PSG.
J'espère.
Non mais
c'est vrai qu'il est, il a l'air plus juste entre guillemets, enfin pas juste mais plus avantageux pour les plus petites équipes, le nouveau format, là où avant pendant les phases de poule, en général, on savait déjà quasiment qui allait être qualifié.
Oui, c'est plus intéressant.
Sauf surprise, c'est plus intéressant du coup dans les dernières journées parce que ça bouge tout le temps.
Un petit peu comme Brest l'année dernière.
Exactement, voilà. Brest crée la surprise.
Mais c'est aussi un filet de sécurité pour les gros et c'est pour ça que les gros ont accepté cette...
Aussi.
C'est qu'une équipe peut se permettre, comme le PSG l'année dernière, de rater complètement sa phase de poule et quand même d'avoir une chance en janvier. Alors qu'avant...
Après, ça ne s'est pas joué à grand-chose quand même pour Paris.
Oui, mais... Ouais, mais... T'as quand même forcé. Hein. Enfin,
Oui, mais justement, parce que t'as aussi des gros tirages, notamment, ça fait des belles affiches aussi.
Mais alors qu'à une époque, on voyait des équipes comme Naples, comme le Barça, être versées en Europa League. Aujourd'hui, on verrait plus des grosses équipes finir dans les 8 derniers, c'est impossible. Les 8 derniers, ça va être Paphos, ça va être...
Oui, parce qu'il y a plus d'équipes
ça
aussi.
Ça va être Kaira Talmati.
Oui, parce qu'on leur donne la chance de jouer aussi.
Donc tout le monde joue jusqu'à février.
Voilà. C'est un avantage.
En tout cas, janvier.
Janvier sûr.
Janvier. Merci Maxence. On va se faire une petite pause avant de revenir avec la Liga. Le Cholismo, on disait que le Cholismo n'était pas mort la semaine dernière, mais là, coup dur, hein, l'anglais qui tout simplement punit un peu son équipe et auteur d'un carton rouge en première mi-temps. Du coup, l'Atlético ne gagne pas derrière face au Celta Vigo. On va parler aussi de FC Séville qui ont corrigé le FC Barcelone avec un ancien à la manette. On revient juste après.
Hey, retrouvez Au bout du foot avec El Hadji Makalou. L'émission où on parle de foot comme entre potes. Chaque lundi en direct de 20h30 à 22h sur Mon Paris FM pour des débats passionnés, des analyses sans filtre et des moments de franche rigolade. Ici, le foot se vit et se discute avec authenticité. Rejoignez-nous pour vibrer, discuter et partager autour du ballon rond.
De retour à Meudon, il est 21h30. Si vous nous suivez, en tout cas, on a parlé de football et on va encore parler de football. FC Séville qui ont infligé tout simplement une correction au FC Barcelone, 4-1, avec Alexis Sanchez, auteur d'un but qui a célébré d'ailleurs. Lui qui avait dit juste avant qu'il n'allait pas célébrer, mais c'est l'excitation, on pense, de ce match. Barça, qui ont tout simplement deux défaites en une semaine, sans Lamine Yamal. Enfin, Lamine Yamal qui était là en début de semaine, mais là qui n'est plus là. Et là, on voit les faiblesses du FC Barcelone. Aroro qui est sorti à la mi-temps avec Gérard Martin. Aroro qui était auteur de la faute commise dans la surface. C'est dur hein, défensivement pour le FC Barcelone. Qu'est-ce que tu en penses, Maxence, de tout ça?
Alors, je pense que déjà, depuis le début de saison, il y avait des manques qui étaient masqués par des performances individuelles de très haut niveau. Donc on a eu Yamal sur le tout début, on a eu aussi Johan Garcia qui fait un début de saison exceptionnel. Et c'est là la vraie différence. L'année dernière, on voyait que le Barça, avec chaque frappe cadrée, quasiment c'était but. On l'a vu face à l'Inter en Ligue des Champions. Et hier, c'est quand même un peu le cas. Ça y ressemble un petit peu. Chechny ne fait pas une parade du match. Chaque frappe un peu cadrée.
On pense notamment aussi, excuse-moi de t'interrompre, mais on pense notamment au troisième but, il me semble. Ouais, le troisième but où on le voit, la balle qui lui passe sous la main. Voilà. Et lui qui est de retour
et qui sourit carrément. Tu sens que voilà.
C'est,
lui,
voilà, c'était le sourire qui voulait dire peut-être moi j'étais à la retraite, vous êtes.
Oui, il a rien à faire là en vrai.
Mais on voit que le Barça, du coup, et même s'il y a ce côté collectif, etc., est quand même hyper dépendant de ses individualités. Là, tu te retrouves à jouer sans Rafinha, sans Yamal, sans Joan Garcia, qui est ton gardien. Ça fait 3 de tes 4-5 joueurs les plus importants, à part Pedri, qui sont plus là.
Pedri est quand même vraiment seul aussi. Hein.
Oui, c'est pour ça. Oh là, mais il se retrouve là tout seul, au milieu de Fermin, qui n'est pas là non plus. Derrière, tu as perdu Inigo Martinez, qui est pour moi une grosse perte. Parce que Inigo, l'année dernière, il tenait ta défense. Avec ce bloc haut que veut Flick, etc. Quand tu vois Araujo, il n'est pas capable de gérer cette profondeur.
C'est pas un cadeau.
Araujo, il n'est pas capable de gérer cette profondeur.
Lui qui voulait partir à la Juve. Hein,
il aurait dû.
Finalement, ils lui ont dit de rester.
Il
a dit qu'il allait montrer sa meilleure saison qu'il n'a jamais faite.
On attend de voir. Non, mais pour moi, de toute façon, le mano à mano, Barça Real, il n'est pas terminé. Ça va être toute la saison. Plus 1, moins 1, moins 2, plus 2. Donc on commence à avoir l'habitude. Mais pour le Barça, ce serait quand même bien d'avoir soit Rafinha, soit Yamal qui puissent enchaîner 3, 4, 5 matchs d'affilée et de retrouver Joan Garcia qui normalement arrêtera de se blesser à un moment. Mais oui, les manques sont criants et on voit qu'une fois que le pressing ne fonctionne plus et que l'équipe adverse peut sortir de ce fameux premier pressing, ils sont en difficulté tout de suite sur les ballons profondeurs, etc. Je sais que c'est un parti pris de Flick et moi je suis plutôt d'accord avec ça, c'est-à-dire que les nerfs, ça lui a donné raison. La défense haute et le fait de prendre des risques sur la ligne du hors-jeu, etc. Mais on voit que quand le premier pressing ne fonctionne pas et qu'il a plus ses harceleurs comme Fermin, parce que Olmo, il fait semblant d'être là, mais tu joues à 10, Rafinha et Yamal qui sont plus là, un Lewandowski qui a quand même plus ses jambes de 20 ans, on voit que quand ça démarre pas de l'avant pour les pressings, c'est quand même beaucoup plus difficile et tu mets ta défense à rude épreuve.
Merci Maxence. Philippe, il y a eu aussi tout simplement, comme je le disais juste avant, Séville qui ont claqué 4 buts à 1. Est-ce que la formule du piège du hors-jeu marche encore? Parce que maintenant, on pense que tout le monde l'a compris. Même si l'attaquant est hors-jeu, ils font exprès d'envoyer une première vague pour que les joueurs s'arrêtent et une deuxième à ce moment-là où personne n'est hors-jeu et pour servir l'attaquant et pour terminer tout simplement. On a vu, il y a des fois, ça se joue à quelques centimètres. Encore Adams qui avait marqué en hors-jeu et qui a récidivé. Et cette fois, il n'était pas hors-jeu. Mais est-ce que ce piège du hors-jeu fonctionne toujours et est-ce que c'est la bonne formule, tu penses, côté barcelonais?
Je crois pas. Je pense pas. Et je pense qu'il va même falloir revoir un petit peu dans le football actuel les conditions pour le hors-jeu. Hein. On sait qu'en d'autres temps, ça aurait été sur la ligne. Maintenant, une petite main, ça dépasse. Non, ça, pour moi, c'est pas un truc qui marche à tous les coups.
Donc pour toi, il faudrait revoir cette formule-là.
Oui. Et je pense qu'on va être obligé de la revoir. Tôt ou tard, je pense qu'on va être obligé de la revoir.
Après, au Barça, pour moi, tu n'as pas la défense non plus pour jouer bas. Hein.
Voilà.
Parce que tu n'as pas la qualité de défenseur. Araujo, Kubarsi, tu les fais jouer des duels dans la surface, ça ne va pas aller non plus. Ouais, on l'a vu, Araujo, le pénalty très bête qu'il concède. Pour moi, c'est un moindre mal, entre guillemets, de les faire jouer haut et de se dire il y a 4 actions sur 5 qui vont être hors jeu. Et ça fait partie du.
Ouais, mais là, il y en a moins que 4 ou 5 actions.
Mais justement, parce que le pressing ne marche plus devant. Je pense que c'est aussi
c'est pour
ça qu'il
faut revoir toute la tactique.
Oui, il faut revoir.
Mais après,
parce que là, maintenant, ils se font que piéger. S'ils pressent plus comme ils pressaient,
Je pense que quand tu récupéreras tes joueurs, Fermin, etc., tu arriveras à continuer à presser. Ouais, et j'ai plutôt confiance en Flick sur sa manière à rebondir. L'année dernière, ils font 6 sur 24 en Liga. Ils enchaînent 6 ou 7 matchs sans gagner. On se dit que c'est mort. Et Flick, il arrive à se réinventer après ça et à aller gagner le titre. Donc moi, j'ai plutôt confiance en Flick, c'est qu'un match du début de saison.
Ouais,
j'ai pas de,
pas
je suis pas très inquiet.
Quoi. Tu peux pas jouer que là-dessus. Enfin bon.
Ils ont des absents aussi, hein, et dans tous les cas, il l'a très bien dit, ils n'ont pas le choix en fait. Ils n'ont pas les ressources défensives nécessaires pour jouer bloc bas, pour reconstruire de derrière facilement. Enfin, Kubarsi, c'est assez faible.
Et t'as pas la richesse d'effectifs d'autres clubs en Europe avec lesquels on les compare, parce que niveau budget, t'as pas pu les acheter, etc. Mais quand tu vois que tu jouais ailier gauche avec Ferran Torres devant Lewandowski,
hein.
38 ans, que parce j'adore, que, mais
y
qui
y
est
blessures aussi, hein,
plus sur la
ça
fin
ça
que sur le début. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué.
Ouais. Merci Maxence. Atlético de Madrid qui ont été piégés à Celta Vigo avec l'anglais qui n'a pas rendu le match facile. Hein. Salson, qu'est-ce que tu en as pensé toi de ce match?
Je t'avoue, ce match-là, je ne l'ai pas suivi, l'Atlético. Donc je ne pourrais pas donner mon avis sur ce match.
Mais 1-1, en tout cas, au Celta Vigo, tu es sûr que ce n'est pas un bon résultat?
Dans tous les cas, ça reste à... c'est une suite pas très logique. Tu vas taper le Real Madrid, je ne sais combien, 5-2, c'est ça ?
C'est ça.
5-2, et tu vas faire un match nul contre Celta Vigo, c'est un peu désolant. Après l'Atlético Madrid, en règle générale, ça n'a jamais été vraiment régulier dans les résultats. Donc c'est pas un résultat qui va me choquer, mais juste qui ça résume un peu le Simone un petit peu. Ils ont du mal à avoir cette constance dans le championnat. Ils ont toujours des petits matchs comme ça où ils vont perdre des points. Pour moi, c'est des points perdus. C'est des points perdus. Tu gagnes des gros matchs et tu vas perdre des points sur des petits matchs. C'est un peu désolant, quoi.
Merci, Salson. Le Real Madrid qui sont imposés 3-1 face à Villarreal. Théo, qu'est-ce que tu en as pensé, hein, avec une domination nette, hein, du Real Madrid, une possession 69-31, 26 tirs, 7 cadrés, hein, pour 3 buts marqués, et un joli but de Mikotadze aussi côté Villarreal.
Bah, c'est ce qu'on attend du Real Madrid conquérant, du moins en Liga. Ils doivent être au-dessus de quasiment tous leurs adversaires, largement, avec l'effectif qu'ils ont. Ils ont les moyens, ils ont les joueurs, surtout pour garder le ballon comme ils ont su le faire, ce qu'ils ne faisaient pas forcément la saison dernière et même en début de saison. C'est des choses qui doivent être, qu'on doit voir, pardon, tous les week-ends en fait au Real, voire même en Ligue des Champions, et pas que contre les toutes petites équipes qui n'ont entre guillemets rien à faire en Ligue des Champions. Ils doivent être constants de cette manière-là, et c'est comme ça qu'ils arriveront à bâtir leur effectif qui est déjà entre guillemets top monde un petit peu partout à tous les postes, mais ils doivent bâtir quelque chose ensemble en fait, collectivement, comme d'autres équipes le font ailleurs en Europe, et ça passe par des matchs comme ça qui peuvent être fondateurs tout au long de la saison en fait.
Merci, Théo. Maxence, quelque chose à ajouter sur la non. Liga?
Bon match du Real qu'on attendait après la claque reçue dans le derby, donc là fallait absolument répondre dans un match pas évident, parce que Villarreal ça reste une belle équipe, même si j'ai pas compris les choix de Marcelino de se passer de Nicolas Pepe et de Georges Mikotadze au coup d'envoi. Il est fait rentrer à la mi-temps, donc c'était une lecture de match que j'avais pas, mais ça lui a pas donné raison au final. Je sais pas si en les mettant ça aurait changé grand chose, mais quand on voit l'entrée de Mikotadze qui est plutôt intéressante, je suis un peu frustré de pas l'avoir vu pendant 80 minutes.
Est-ce que c'était pas plus, tactique que vous?
Mais j'adore ce joueur. J'adore ce joueur.
Il a voulu jouer la défense.
Et quand tu vois la grosse occasion qu'a Villarreal en fin de première mi-temps, tu te dis aussi que si c'est Pepe ou Mikotadze, ça peut finir au fond.
Mais ce qu'il se la procure aussi. Parce que s'il a choisi ce jeu-là,
on saura jamais.
Foot fiction.
Mais pour moi, quand même, tes deux attaquants principaux qui flambent, c'est bien de les mettre contre le Real quand tu joues en Liga, mais bon, c'est comme ça. Et sinon, côté Real, ça a été intéressant avec Mbappé qui s'est affirmé dans son rôle de leader et qui a fait quelque chose d'assez rare en laissant un pénalty à Vinicius.
Ouais, tout de même, ouais.
J'ai trouvé ça bien. Ça, il montre,
malgré qu'il n'avait pas marqué, qu'il avait déjà marqué.
Exactement, mais là, c'était vraiment pour lui dire, écoute, maintenant, c'est moi le papa. C'est-à-dire bon, c'est, je choisis de te le donner, mais c'est plus les chamailleries de qui prend pas, c'est ton tour, c'est mon tour. C'est, attends, j'ai le ballon, c'est moi qui dois le tirer, mais tiens.
Qu'il a pas marqué. Alors,
exactement, mais tiens, je te fais une fleur. Et au final, il a marqué après, donc tout va bien. Mais
je pense qu'il savait qu'en prenant un but, qu'il va en récupérer 5-6 autres, parce que Vinicius, il va en distribuer.
Et puis peut-être qu'il a mûri aussi, Mbappé, et qu'il se dit, vaut mieux que j'en mette que 30, mais qu'à côté, j'ai un Vinicius qui fasse le taf et qu'il soit en confiance, qu'il soit bon, plutôt que j'en mette 45 et qu'à côté, Vinicius, il soit encore la tête dans le seau comme l'an dernier. On va rien, il sait qu'il gagnera rien sans un grand Vinicius.
Sacré Mbappé quand même, faut le dire. Sacré Mbappé.
Non, mais pour le coup, c'est bien. Faut souligner aussi quand c'est bien.
Faut souligner. Pour
pire ennemi. Pas du
Merci.
Tout.
En
pas
tout cas,
ennemis, moi.
Pour la Liga, Real Madrid premier avec 21 points, Barcelone deuxième avec 19 points, Villarreal qui étaient invaincus jusqu'ici et qui ont subi leur première défaite avec 16 points troisième, Betis 15 points quatrième et Atlético de Madrid cinquième avec 13 points. Séville aussi sont remontés à hauteur de Atlético Madrid, 13 points. Séville, petite question pour Philippe. Est-ce que Séville, tu penses qu'ils peuvent jouer le top 6 cette saison?
Oh oui, quand même.
Séville qui ont eu du mal, hein, qui jouaient le maintien ces dernières années.
Ouais, mais bon.
Mais là, qui ont que la Liga à jouer.
Ouais. Donc, ils peuvent très bien aller chercher une place en Ligue Europa. Aller se qualifier en Ligue Europa, bien sûr, c'est tout à fait dans leur corde.
Pourquoi pas, en tout cas. Ouais. Merci, Philippe. on va se faire encore une petite virgule pour revenir avec la Première Ligue. Hein, la Première Ligue qui a été mouvementée ce week-end. Liverpool qui sont allés s'incliner à Chelsea 2-1. Hein, Chelsea qui n'arrive plus à terminer les matchs à 11 hein, aussi, hein, qui enchaîne les cartons rouges hein, quand même. Il faut le souligner, ça fait déjà 3 matchs consécutifs avec des cartons rouges.
Ils ont terminé à 11 là, non ?
Non, ils ont pris un carton rouge en fin de match. Ah non, autant pour moi, c'est vrai. C'est le coach qui a pris.
Ah oui, c'est le coach, ouais, ok.
C'est le coach, voilà, c'est le 12e membre.
Voilà, le 12e membre.
Voilà, c'est
bon, pas, lui, il a le droit, c'est moins chiant quand même.
C'est moins chiant, c'est sûr. Et quand vous avez gagné aussi le match, c'est sûr que ça l'est aussi. Mais voilà, Liverpool, en tout cas, qui se sont fait shipper leur place de leader. On y revient juste après. Manchester United qui renoue avec la victoire et qui s'impose 2-0 face à Sunderland. Amorim qui n'est pas sur la sélect, en tout cas les dirigeants mancuniens lui ont dit que en tout cas ils avaient toute sa confiance jusqu'à la fin de la saison du moins. Je t'ai vu souffler un peu Philippe, qu'est-ce que t'en penses toi de Manchester United? Pour toi Amorim devrait partir?
Ils essayent tellement de revenir plus haut au niveau que ça va être compliqué pour ce club. Ça va être compliqué. Alors, je ne sais pas si l'entraîneur devra partir, mais en tout cas, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour redevenir un grand club anglais. Mais c'est dommage parce que avec le palmarès et l'histoire qu'a ce club, c'est vraiment dommage. Mais il rame depuis plusieurs années et je crois que c'est pas fini, quoi.
De toute façon, tu veux enlever Amorim pour mettre qui de toute façon.
Oui, c'est ça pour le problème. Ça. Je sais pas si.
Mine de rien, ils sont à 6 points du premier.
Ouais, mais enfin, bon.
Non, mais attends, ils ont perdu des matchs bêtes. Pour moi, ils ont perdu des matchs bêtes sur les dernières journées. Après, peut-être faut laisser encore un mot.
Je sais pas. Je sais pas. Si
parce qu'ils battent Sunderland, c'est pas mauvais.
Ils sont aussi à 6 points de la zone rouge.
Ouais. C'est un club qui rame depuis plusieurs années et je crois qu'ils sont encore partis.
Moi, je regarde positif toujours lui, c'est toujours négatif.
Non, mais c'est vrai.
Après, c'est vrai. Ils sont dans le ventre mou.
Je pense que malheureusement, c'est leur niveau actuel.
Ouais, c'est leur niveau. Même 10e, j'étais.
Entre 12e, peut-être 12e, 13e.
13e, ouais. L'année dernière, il a fini 17e.
Ouais, c'est pour ça, mais bon. C'est un club qui rame depuis longtemps, quand même, maintenant.
C'est sûr que ça va être compliqué. Manchester City qui sont imposés 1-0 à Brentford sur la plus petite des marges, mais ça suffit pour engranger les 3 points. Théo ?
Bah, ils ont fait le strict minimum, quoi. City gagne. Après, en même temps, Brentford, ça aurait été étonnant de ne pas gagner, mais ils doivent, selon moi, être bien plus supérieurs à ce genre d'équipe. Après, c'est pas non plus étonnant. Parfois, il y a des matchs plus compliqués. La PL, on sait que c'est un championnat assez compliqué à jouer. Hein. Certains matchs, ça se résout dans les derniers instants. Voilà, c'est toujours assez physique. Bon, c'est pas étonnant que parfois il y a des matchs plus compliqués pour les grosses écuries. Donc, ils font le boulot. Voilà. Ils font le strict minimum. On en attend plus, c'est clair, mais ils font le boulot.
Merci Théo. Arsenal qui sont imposés 2-0 face à West Ham dans le derby London avec Bukayo Saka tout simplement auteur d'un but sur penalty, lui qui renoue aussi avec qui enchaîne tout simplement parce qu'avec l'Olympiakos il était rentré en jeu, il avait mis un petit but et là il a enchaîné. Maxence.
Oui, Arsenal qui se place en leader de cette première ligue et pour moi c'est en début de saison, on se disait Arsenal, est-ce qu'ils vont pouvoir enfin le faire, etc. Pour moi, là, ils sont dans une obligation de le faire.
C'est-à-dire c'est que à nous rien.
S'ils ne le font pas cette année, avec un City qui est moins bien, un Liverpool en reconstruction qui a du mal avec les recrues, les intégrations, etc., Wirtz, Isaac, qui ont du mal à prendre leur place, un United qui est inexistant à ce niveau-là, un Chelsea qui est en perpétuel renouvellement. Pour moi, c'est.
Il ne faut pas nous mettre United dans la course.
Non, c'était une parenthèse.
Pas du tout prestigieux, quoi.
Mais pour moi, Arsenal, c'est leur année ou jamais. Si cette année, ils ne le font pas, on voit qu'il y a une moyenne de points devant qui est faible par rapport à d'habitude. Mmh. L'année dernière, Liverpool, à la même époque, ils avaient 7-7, 21 points. Les grandes années de City, c'était pareil. Ils faisaient des 98, 100 points. Et ils avaient une moyenne de fou. Et là, on voit que le leader est à 16 points. Donc, le leader a perdu 5 points déjà. Et je pense qu'Arsenal, c'est un championnat pour eux. Un championnat où ils vont avoir le droit à l'erreur. Et ils l'ont déjà eu d'ailleurs. Donc je pense qu'Arsenal, c'est leur saison ou jamais c'est en première ligue. Si j'étais Arteta, c'est dur à dire, mais limite, je ferais une croix sur la Ligue des Champions pour enfin gagner une première ligue et revenir sur le devant de la scène, au moins nationale.
Donc voilà, pour moi, Arsenal se place en favori. Et Liverpool, si je peux faire une petite transition vers Liverpool-Chelsea.
Ouais, j'allais la faire.
C'est, excuse-moi.
Je t'en prie.
Non, c'est un petit peu... C'est inquiétant. Je vois pas Wirtz comment il arrive à s'intégrer dans cette équipe. Justement, il n'y arrive pas. Il est remplaçant au coup d'envoi. Il rentre à la
zéro
mi-temps.
But, zéro passe décisif.
Il est totalement inexistant. Il est pas, on voit qu'il est pas dans les circuits de passe. Ça va pas. Devant Isaac qui a pris la place d'Ekitike. C'est une histoire de statut, etc. Mais je sais pas trop pourquoi.
C'est là que je voulais. En fait, c'est là que je voulais en venir côté Liverpool. Est-ce que Arnaud Slot ne fait pas aussi le mauvais choix, en tout cas, d'aligner un joueur en pleine confiance et en pleine bourre, que de mettre un joueur qui était dans des problèmes, même émotionnellement, qui n'était pas prêt.
Mais je pense qu'il est un peu prisonnier de tout ça.
Voilà, Isaac, je pense que cette année, ça va être un peu l'année de Mbappé à son degré.
Ouais, bien sûr, bien sûr.
Mais voilà, il a eu ces petits problèmes aussi avec Newcastle.
Il a forcé le transfert, il ne s'est pas entraîné.
Il ne s'est pas entraîné, il n'a pas cette condition physique, il n'est pas... On sent plus, c'est pas le même Isaac que l'année dernière, voilà.
Non, c'est vrai, c'est vrai. Et entre guillemets presque piégé en fait par ces.
Bien sûr,
parce que c'est des grands noms avec Wirtz aussi, c'est des super grosses sommes surtout.
Aussi.
Donc surtout. Bah c'est des joueurs que mine de rien les fans, les présidents, les gens veulent voir quoi.
Bah bien sûr.
On peut pas les laisser sur le banc après avoir dépensé autant.
Parce que si tu joues Chelsea et que tu mets ni Wirtz ni Isaac et que tu perds, bah ça va. Le board va pas être ravi.
Pour le résultat elle-même.
Oui,
mais...
Après, avec Etiquité, ces derniers temps, ça roulait. À part la petite bourde qu'il a fait, je pense que c'est ce qui lui coûte aussi un peu.
Mais je pense que ça, c'était une excuse. Ça. C'est une excuse qui a été trouvée.
Mais c'est
parce qu'on voulait le sortir.
Tu donnes le bâton pour te faire quoi, tu
dis ouais, mais ça a pris
des proportions. C'est arrivé à d'autres. Il n'a pas craché sur le maillot.
Non, excusez-moi, mais c'est les médias qui ont peut-être pris des proportions. Entre nous-mêmes. Mais ça reste. Oui, mais ça reste quand même. Voilà. Je ne trouve pas les proportions parce que niveau sanction, il n'a pas eu de sanction.
Oui, mais Slot en a parlé et l'a allumé en conférence de presse. Au lieu de le protéger, Slot aurait pu dire c'est une erreur. Mais il aurait pu dire
faire ça.
Je pense que demain, Sénima Youlou fait pareil au PSG.
Mais je lui en veux.
Mais je pense que Luis Enrique
met en danger l'équipe.
Mais je pense que Luis Enrique, c'est pas le même rôle. C'est pas le même rôle.
Mais même si c'est.
Non, même
quelqu'un d'autre. Même Barcola. Barcola le fait. Je pense que Luis Enrique en conférence de presse, il dit ah, c'est une petite erreur de jeunesse, etc. Ça arrive. Tu dois le protéger. Tu dois le protéger. Le mec, il vient d'arriver. Tu l'envoies au feu en disant c'est une grave erreur.
Sûr,
on lui en veut, mais c'est débile.
Bien sûr, mais après, comme on le dit aussi, Arnaud Slot, là, il arrive où il se retrouve un peu piégé. Ça se peut qu'il avait des plans avec l'Antiquité et que là, il vient de lui briser ses plans. Et c'est ce qui
moi, je pense que c'est l'inverse.
Liverpool sont deuxième.
Après, moi, je pense que c'est l'inverse. Je pense que si Ekitike est tout seul devant, Slot, il le protège. Je pense que là, il y avait Isaac, il s'est dit, c'est une opportunité de mettre sur le côté Ekitike parce qu'il a fait une erreur et de mettre en avant Isaac. Donc, je vais virer Ekitike, je vais utiliser cette excuse-là, entre guillemets,
après,
pour le sortir
aussi,
de l'équipe.
C'est aussi un petit peu aussi de la faute d'Ekitike de se mettre dans cette situation. Parce que...
Ah oui.
Mais ça arrive à d'autres, je veux dire.
Oui, mais est-ce que ça vaut le coup d'enlever son maillot pour un match comme ça?
Non, mais attendez, excusez-moi.
C'est un match de coupe.
Excusez-moi. Ouais, mais je suis obligé
c'est
de.
Même si c'est un derby ou je ne sais quoi.
Mais excusez-moi, je suis obligé quand même.
Un but de ouf qui
ouais, je suis obligé de revenir quand même sur ce match. Hein. Tu joues un 16e de finale contre Southampton.
Bien
qui
sûr.
Sont en championship.
Mais ça n'a aucune incidence sur le résultat.
Tu rentres en jeu, tu mets un but de 1 où tu es servi par Chiesa, n'importe quel joueur de football professionnel, même en dessous.
Bien sûr, bien sûr.
Mais ce but-là. C'est exactement ce que Arnaud Slot dit aussi. Du coup, de ce côté-là aussi, si tu te mets du côté du coach, tu peux comprendre.
Mais je le comprends.
Mais moi, attends,
je
te dis, en demi-finale,
il le protéger en public et le tuer en privé.
D'accord.
Si
bien sûr.
Et en public,
exactement,
il doit le protéger.
Il doit
faire le joueur.
Il doit protéger son petit joueur.
Ouais, bien sûr. Bien sûr.
Ah, mais si tu fais ça en finale de Ligue des Champions, ce qui est équité, fait, là, c'est autre chose. Mais là, tu fais ça en 16e de finale.
Mais justement, mais c'est pas. Je dis pas que c'est bien.
La réaction est disproportionnée. C'est très bête de sa part.
Je dis pas que c'est bien, mais tes coachs, t'es en septembre, protège ton gars.
Le jeter entre guillemets sous
oui,
le
ça je suis d'accord avec vous sur le fait que ouais en public il doit pas le casser.
Aucun entraîneur.
Normalement tu dois pas tu dois protéger tes joueurs, ça il y a pas de problème
surtout
là-dessus.
Que le mec fait un beau début de saison, il a
ouais,
100
non ça tu,
et
franchement
encore, tu leur ajoutes ça, c'est dur c'est
mais
c'est
parce
sévère.
Que ça, moi franchement quand j'ai vu ça j'avais la rage contre lui parce que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup depuis le Paris Saint-Germain, même depuis Reims, mais il a pas eu sa chance au Paris Saint-Germain à cause bon on va pas rentrer dans les détails et il va en Allemagne, il fait une très belle saison, là il arrive un beau début de saison et malheureusement un petit truc un bête comme ça va cacher un peu son début de saison.
Moi s'il y a quelqu'un qui m'inquiète très rapidement à Liverpool c'est Mohamed Salah. Ah, c'est le une catastrophe. De saison, c'est très.
Après,
très,
c'est
très
pas que lui. Hein. J'ai
oui,
l'impression que c'est.
Ah non, mais.
Oui,
mais
plus précisément parce que c'est leader.
Leader.
C'était le leader. Leader. C'était le leader.
On est bien loin du Salah qu'on
connaît. Mais j'ai envie de voir Liverpool pour moi cette année. Je sais pas si la mort de Jota leur a. Ça a touché certains joueurs, mais j'ai
peut-être,
comme une impression.
Van Dijk en a parlé, ouais. Et je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas assez,
si on a pas
pris,
assez
en compte,
pris en compte.
Parce que c'est vrai qu'ils ont quand même,
impact, hein.
Ils ont quand même perdu
parce
un.
Parce que Jota, c'est pas
un,
c'est pas un, c'est pas un mec.
C'est
tu vois.
Mais je trouve que Salah est quand même vraiment en dessous de son niveau. Enfin.
Après, prendre l'âge aussi.
Est-ce que ça ne l'a pas affecté aussi hein,
possible,
ça, là, on l'a
c'est
vu
possible,
à la fin, quand il s'est en train de chantonner son nom, pleurer, rester avec le
c'est
public.
Vrai.
Ça, c'est des choses qui marquent, je pense.
Ça, c'est
évidemment,
vraiment
hein,
du, ça, c'est en dehors du football.
En sachant que ça là arrivait déjà avec une déception de l'année dernière, où il se disait, c'est peut-être cette année où je peux gagner le Ballon d'Or, parce que ça là
ouais,
était. Faut pas, non, Philippe.
La première moitié de saison,
il
était
presque dans le débat.
Ah oui, oui.
C'était le seul. Non, mais excusez-moi.
Jusqu'au PSG. Jusqu'au PSG.
Dans le débat, au moins. Ouais, novembre, les gars, on s'en fout un peu. Hein.
Non, non, non,
oui,
non,
là, sûr,
non on a
oui,
dit
ouais.
C'était encourageant.
Jusqu'au
PSG, il fait une saison de malade.
Janvier,
ouais. Il met but sur but. But sur but.
La moitié de la saison, quoi.
La moitié, il compte pas.
La deuxième partie de saison, la première partie de saison, il l'a fait en deuxième partie de saison. Je pense que ça change beaucoup de choses
ouais,
pour le Ballon d'Or.
Ça change beaucoup de carrière aussi. Hein.
Bah,
de faire le truc au moment T.
Ousmane Dembélé, regarde, première match de saison, il fait le contraire de ce que ça l'a fait, mais au final, ça.
Mais
sauf que lui, derrière, ça gagne des titres.
Exactement.
Elle,
c'est pas la même chose. Mais je pense que l'objectif de Salah cette année, il est pas avec Liverpool. L'objectif, c'est la CAN.
Ouais, mais même
depuis l'année dernière. Il prenne enfin une CAN. Salah, il a fait
ouais,
je ne sais combien de finales.
Mais cette année, il la prendra pas.
Et...
Ouais,
non, mais je sais pas s'il la prendront.
Ouais,
mais je pense que son objectif à lui.
Ça reste l'Egypte, mais bon.
En plus, en Égypte, parce que. Être un Égyptien et pas avoir gagné la CAN, c'est quand même un peu compliqué.
Ouais, mais il arrive dans une génération. Ah, attention, il arrive dans une génération où c'était pas la meilleure.
C'est vrai.
Il est pas arrivé à la génération.
Mais je pense que pour lui, ne rien gagner.
Même les concurrents aussi sont très bons.
Ouais,
les concurrents aussi sont meilleurs.
Mais ne rien gagner.
Ils ont plus le monopole de cette CAN.
Ne rien gagner avec son pays, ce serait un déchirement. Le mec a perdu des finales au tir au but.
Oui.
C'est quand même.
Ça fait comme Lionel Messi avec l'Argentine au début et après derrière.
Je pense qu'il se dit ça va finir par tomber.
Messi a fait combien de finales avec l'Argentine
entre
la
Copa.
La Coupe du Monde,
ouais,
du 2004,
ouais,
etc.
Ouais,
et au
ouais.
final, derrière, tout ça, il nous a récupéré. Après,
ouais, mais ça, là, il lui reste pas grand
ouais,
chose.
Il
n'y a
pas grand chose.
Il reste pas grand chose. Et puis après, ouais. C'est fini.
La cage à 32, 33, là. Non okay. Ouais, ça faisait trentaine, plus de la trentaine.
Ça va,
ouais,
être,
ça
très compliqué,
à,
en
ça
tout
va
cas,
commencer à être compliqué.
Je pense pour ça.
Bon,
Newcastle hein. qui se sont imposés face à Nottingham Forest 2-0.
Oh, je peux rajouter
Tottenham
un petit mot.
Qui sont imposés 2-0.
Président de Nottingham, là, qui a viré. Qui est parti virer l'ancien, j'ai oublié son nom là.
Nuno Espirito Santo.
Exactement, ouais. Parce qu'il ne s'est pas qualifié, il l'a viré. Alors regarde où ils sont maintenant, Nottingham. Ils sont au port de la zone rouge. Au port de la zone rouge.
Je pense qu'ils vont jouer le maintien cette année. Hein.
Et puis leur série est catastrophique, c'est 7 défaites en 7 matchs pour Postecoglou. Je pense qu'il ne passera pas la trêve internationale là.
Il ne faut aller pas virer.
C'est une gestion de club cataclysmique si on veut être simple.
On l'a vu
après,
sur la fin de saison.
Après, Postecoglou, il dit toujours je ne gagne pas la première, mais je gagne la deuxième. Donc peut-être il attend la deuxième saison.
Pour gagner la championship.
Oui,
pour remonter après. Ouais.
C'est possible, c'est bien vu, Maxence. Mais ça sera quand même un trophée côté Nottingham Forest. Voilà, en tout cas, on va rappeler le classement. Arsenal, premier avec 16 points. Liverpool, deuxième avec 15 points. Tottenham, troisième, égalité de points avec Bournemouth, 14 points. Manchester City, cinquième avec 13 points. Et on retrouve Chelsea à la septième place avec 11 points, devancé par Crystal Palace qui ont perdu face à Everton ce week-end aussi avec 12 points. Voilà pour la première ligue. On va enchaîner. Je pense qu'on va partir.
On n'a pas fait l'Italie.
On va parler un peu.
On a fait l'Italie, non ?
Oui, non, Italie, Allemagne. Je pense qu'on va y revenir la semaine prochaine. Il y a eu des gros matchs, mais pas trop d'actu entre la Juve et Milan. Le match 0-0. Il n'y a pas eu grand chose de ce côté-là. Bayern qui
cartonne. Qui gagne 3-0.
Il n'y a rien de surprenant. Dortmund qui ont fait match nul face au RB Leipzig. Voilà,
c'est
je
des
pense
formalités.
Que, voilà, je pense que la semaine prochaine, on reviendra sur.
Ah, après,
l'équipe
c'est la trêve.
La semaine prochaine, hein.
Comment ?
Lundi prochain, il y a l'équipe de France.
Bien sûr. Bah,
c'est la trêve, là. C'est la trêve.
On va se faire une petite virgule avant de revenir avec l'équipe de France. Florian Thauvin, qu'on disait.
incroyable.
Qui est de retour,
En
équipe de France, tout simplement, depuis 2019. Lui qui n'avait pas vu.
De toute façon, ce poste-là, c'est lui qui le mérite.
Cet ensemble-là. On y revient juste après. Du coup, on a pu assister à la petite rentrée hein, de ces joueurs. On a vu les outfits les outfits aussi de Kamavinga, bon, Koundé, lui, ça se voit qu'il est un peu dans l'orage, un peu avec le FC Barcelone.
Tu préférais Mateta, moi.
Il est arrivé un
Mateta peu. Mateta simple.
Survêt à distance. Noir. Oui. Basique.
Oui, basique. Bien aimé.
Mec Ménier aussi est arrivé avec un survêt noir.
Ouais,
basique,
mais celui de Mateta, il est plus marquant.
Oui, mais Mateta, après, ça sera plus pour. Remplir les gourdes, tu penses, ou pour être titulaire, parce que ça va être très compliqué.
Oui, il va pas jouer. Je pense pas qu'il va.
Là, quoi
qu'il
en soit, il va peut-être rentrer en cours de match. Il va rentrer en cours de match. Il va rentrer en cours de match. Oui. Sur les deux matchs, il va rentrer. Oui, pour ne plus être sélectionnable avec les Léopards.
Après, je pense que c'est un peu tard s'il veut être sélectionnable avec les Léopards. Il a 28 ans, le mec. Donc, faut qu'il se décide.
Ah oui, non, mais là,
il aurait pu se décider avant, je pense.
Bien sûr.
Si vraiment il avait cette volonté.
Bien sûr, je pense que là, c'est assez clair. Mais est-ce que c'est un bon choix ? On va commencer tout de suite dans le sujet avec Mateta, hein, parce que on sait qu'à ce poste-là, il y a énormément de concurrence. Hein. Dembélé qui veut maintenant jouer en pointe, Kylian Mbappé qui joue déjà en pointe et qui ce rôle-là maintenant va à ravir. Parce qu'il performe, surperforme même, on pourra même dire ça. Derrière, on a des personnes comme Marcus Thuram, on a des Kolo Muani même qui sont blessés, qui ne sont pas là, et on sait Didier Deschamps comment il affectionne ces joueurs-là. Est-ce que
mais après,
c'est pas un choix un peu.
Moi, je fais confiance à Didier.
Après,
confiance
à Deschamps.
Donc, s'il a appelé, ça fait un moment déjà, il a fait un très bon tournoi olympique.
L'année dernière.
J'ai même en meilleure forme l'année dernière.
Il aurait même peut-être dû être dans le groupe. Bon, bah là, effectivement.
Même la saison qu'il fait la saison dernière, et Crystal Palace, elle est bonne. Il gagne, je crois, il prend la
finale. Donc, il fait un beau tournoi olympique. Donc,
avec voilà. Étiquité aussi.
Oui, oui, oui. Bon, bah, je pense que. Deschamps l'a appelé, moi, j'y fais confiance.
Après, les Kolo Muani Thuram, c'est des joueurs qui peuvent aller sur le côté, tu vois. C'est
non, pas, je pense que Thuram. Ah oui, sur le côté, sur le terrain.
Oui, sur le terrain. C'est des joueurs qui peuvent jouer sur le côté. Donc, ça laisse de la place pour un.
Sur le côté, si t'as tout le monde, t'as pas de place.
Oui, mais si sur
t'as Barcola, t'as Doué.
Ça va dépendre de. Ouais, si t'as Doué, tout ça qui revient, ça va être compliqué. Mais c'est pour ça qu'il est là, je pense, déjà.
Exactement. Je pense que soit Mateta ou Thauvin, si t'as tout le monde, ils voient pas la couleur de la Coupe du Monde, les mecs. Ils seront réservistes.
Après Mata, ça peut être intéressant dans le style à Giroud, tu vois.
C'est ouais, mais je pense qu'il préfère Thuram. Je pense que Deschamps préfère Thuram.
Il pourra faire toujours un plus ancien. Parce que Deschamps, c'est pas
Thuram. Il est dans le groupe, il est très pote avec les mecs.
Ça fait un moment qu'il est là.
Il est aimé des stars, c'est un pote d'Mbappé.
Et Thuram n'est pas mauvais non plus. Là, il fait une très belle saison l'année dernière.
Il y a son petit frère au milieu.
Les deux frères, ils sont performants. Donc. Après ça c'est des joueurs, ils sont là parce qu'il faut pas oublier qu'à cette période de la saison il y a toujours des blessés. Ouais. Voilà, c'est des joueurs qu'on les met là-dedans pour leur dire qu'ils peuvent être potentiellement disponibles, enfin sélectionnables plutôt à la prochaine Coupe du Monde.
T'y crois ?
Si tout le monde est là, non. Ah non, il sera pas.
On a pu voir Nkunku aussi.
Ça c'est n'importe quoi.
Nkunku ?
Nkunku il a fait 3 matchs avec le Milan AC et il est resélectionné. Sous prétexte de quoi ? Il a mis un but.
C'est ce qu'on disait. Tu sais que Didier Deschamps affectionne ces joueurs-là. Il a ses gars. Et c'est comme Kolo Muani. Demain, Kolo Muani, s'il n'est pas blessé, je ne m'imagine pas qu'il ne va pas
se blesser. Je pense qu'il sait aussi qu'un Thauvin, un Nkunku, ils vont venir dans le groupe sans aucune réclamation. Ils ne vont rien demander. Si Thauvin, tu le laisses sur le banc 90 minutes, 2 fois, il s'en fout.
Il a fait la Coupe du Monde.
Il a fait son rassemblement. Il ne va pas te foutre la merde dans le vestiaire. Il ne va rien demander, rien exiger. S'il faut échauffer les gardiens à l'entraînement, il va le faire.
Et puis ramasser les coupelles à la 88e.
Voilà. Non mais c'est vrai, moi à la place d'un Thauvin, parce que Thauvin, j'adore le joueur, il est passé par l'OM, il m'a fait vibrer, etc. Non vraiment, j'affectionne le joueur, mais il a fait 7 matchs à Lens, il a mis un but dans le jeu, un but sur penalty. J'aime bien le joueur, mais je trouve que c'est tôt. Il n'a pas assez montré. Moi j'aurais plus surfé sur la forme d'un jeune français, Bakua j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il propose, mais je pense que Deschamps, il n'est pas dans ce mood-là parce qu'il ne cherche pas un nouveau titulaire ou un challenger. Il se dit, il va arriver, il va vouloir montrer, il va avoir les dents longues, il va vouloir prouver. Alors que Thauvin, il vient, il est dans ses souliers, il a déjà sa chambre, il connaît le numéro, il connaît le code d'entrée et ça va aller.
Comme Tolisso, on aurait pu penser aussi que Tolisso aurait
ça, je ne comprends pas. Tolisso, pour moi, j'aurais laissé sa chance. Je ne comprends pas pourquoi il est toujours zappé.
Surtout quand
on voit des profils au milieu qui, personnellement, ne me font pas vibrer. Au milieu, quand dans les dernières listes, pas cette fois, mais dans les dernières listes, il y avait Zaïre Emery. Zaïre Emery, je suis désolé, il ne mérite pas d'être en équipe.
Franchement,
de
France, je te dis,
dans aucun monde.
Ah, même au Paris Saint-Germain, il n'a plus sa place en 11.
Pour moi,
c'est compliqué des
places. Pour moi, mettre Zaïre Emery devant Tolisso, c'est un problème.
Non, pour moi, je mets Tolisso. Parce que là, aujourd'hui, Zaïre Emery, il a vraiment un problème mental.
Tu vois, par exemple, un Kamavinga qui est revenu depuis très, très récemment.
je l'aurais peut-être pas repris tout de suite. Tolisso, ça fait un an et demi qu'il est là.
Ouais, mais ça reste des tauliers, des mecs comme Kamavinga.
Kamavinga, c'est pas un taulier. Il a jamais été titulaire en équipe de France.
Non, mais excuse-moi. Mais Deschamps, il est toujours
fier. Joueur. En tout cas, même s'il a pas été titulaire, il peut jouer pas loin d'être titulaire. Kamavinga,
c'est vrai. France,
il a eu beaucoup de blessures.
Ah ouais.
Ouais, mais pour moi, Kamavinga, si tu me dis Coupe du Monde, je te dis je le prends. Mais là, il a fait 3 matchs au Real. Laisse-le refaire sa prépa physique tranquille, s'entraîner pendant 2 semaines. Qu'est-ce que tu vas le remettre en équipe de France ? Récompense un Tolisso, qui est un gars bien, qui est un mec de vestiaire, qui va apporter son expérience. Et pour moi, Tolisso, dans une liste de 23, il ne ferait pas tâche. Hein.
Non, mais Deschamps est frileux sur le changement. Souvent, il a ses préférés, voilà, il a son cadre, c'est comme ça. On est habitué avec lui, hein. Chaque liste c'est la même chose. Alors.
Oh non, ça manque un peu cette époque où, t'avais à l'époque on était plus jeune et t'avais l'époque des Domenech ou Laurent Blanc où t'avais un joueur quand il performait.
Ça manque pas moi.
Quand... Non, mais quand... non, je te parle pas.
Il y avait des surprises.
Oui, hein, pas les 23. Je te parle pas des 23. L'époque des Mexès, etc. Là, les Alou Diarra. Je te parle pas de cette époque-là. Je te parle dans la manière de gérer quand t'avais un joueur qui performait pendant une semaine, deux semaines, trois, voire trois semaines en Ligue 1 ou dans un autre championnat. Tu le voyais directement en sélection.
Moi, j'aime pas ça, moi.
T'aimes pas ça.
Moi j'ai envie que ce soit sur la longueur. Un Tolisso sur la longueur, il mérite. Ça fait un an et demi qu'il est au top.
Non,
Tovin, ça fait 3 semaines.
T'as
3 semaines qu'il est revenu.
Et qu'on le voit à la télé. Surprise dans la liste, ça faisait du bien.
Ouais, mais moi j'ai Chibonda à la Coupe du Monde, ça n'existe pas. C'est Domenech.
Chibonda, je te parle pas de Chibonda.
Ah, c'est ça.
Oui, ça c'est en 2006, des Chibonda.
Mais moi je préfère faire confiance aux mecs qui jouent depuis 2 ans, 3 ans, qui sont au top.
Un entraîneur fait ça.
Ouais, bien général, sûr, bien sûr.
Un entraîneur d'équipe nationale.
Je t'ai pas dit de tout changer. Je t'ai pas dit de tout changer, mais d'avoir des petites surprises un peu, de donner du mérite un peu au mec qui a performé pendant un mois, deux mois. Et parce que t'as des joueurs que pendant longtemps on les attendait en sélection. Et comme la casette, je pense que t'as un problème avec Didier Deschamps, ça c'est autre chose.
Mais sur une liste comme l'équipe de France, t'as pas la place pour les surprises. T'as tellement de mecs qui sont au top niveau dans leur club, titulaire. Mais tu vas pas sortir un mec du chapeau.
Oui, mais tu peux sortir un mec par exemple qui est moins performant que d'habitude, qui pendant ma Colomani à un moment qui était pas bon, et le mettre à la place d'un nouveau mec pour faire tourner un petit peu. Tu vois, je vais en venir. Tu veux pas garder toujours les mêmes joueurs. Et t'as des joueurs, des fois ils forçaient avec des joueurs. On savait que c'était un peu compliqué. Mais après, bon, je sais pas si le temps lui a donné la raison.
Merci, Solson. On rappelle, en France, qu'ils vont affronter l'Azerbaïdjan. Je pense que ça va être une formalité.
Vivement dans 15 jours, le retour des clubs.
Et l'Islande aussi.
C'est des matchs qu'il faut jouer. C'est des matchs qu'il faut jouer. T'es obligé de les jouer.
Tu peux
l'essentiel, c'est de faire le job.
Pour envoyer les espoirs.
Donc c'est lundi, attention, hein, c'est lundi. Pendant l'émission, hein, il semble.
Ouais. On suivra ce match, moi je pense pas qu'on va faire ça, en vaut pas la peine de faire une spéciale émission équipe de France. Non. On aura d'autres sujets à traiter, bien évidemment, des sujets qu'on n'a pas traités maintenant. On va tout simplement passer à la suite, hein. On va se faire un petit quiz de fin, on va enchaîner directement, tu me dis quand c'est bon, Jason. Qui est le plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des Champions ?
Yamal.
Non. Boyan.
Non plus.
Mayulu.
Non plus.
Non, ça doit être un mineur, c'est sûr. C'est quelle nationalité ?
C'est pas Mbappé, il est en jeune quand même.
Non. Espagnol.
Fati.
Exactement, c'est en dessous Fati, 17 ans et 40 jours. Il marque même contre l'Inter en 2019 avec le Barça. Voilà, Ansu Fati, hein, qui est dans la légende, on peut le dire, en tout cas qui est inscrit dans quelques records. Quel est le joueur qui a marqué dans 6 compétitions différentes lors d'une seule et même saison ?
Cristiano.
Dans combien de compétitions t'as dit ?
Dans 6 compétitions différentes la même saison.
Vara.
Non.
Messi.
Je vais vous donner un petit indice. Les compétitions, du moins, auxquelles il a participé. La Liga, la Copa del Rey, la Super Coupe d'Espagne, la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe et la Coupe du Monde des clubs.
Donc la Coupe du Monde des clubs,
c'est pas peu ça.
Quelle année ?
2009-2010.
Oh ouais, tu vas loin.
Forlan ?
Non.
C'est pas Lewandowski, non ? Non.
Coupe du Monde des clubs, t'as dit ?
Non, mais c'est Barça au Real, globalement. Super Coupe, machin, donc ça.
Copa del Rey.
FC Barcelone.
Eto'o ?
Non plus.
C'est pas Messi. Hein.
David Villa ?
Non.
À cette époque,
t'étais pas loin quand même.
Pedro ?
Pedro.
Ah, ah t'es Pedro. Chaud.
C'était pas loin.
Pedro.
Oui, oui, oui.
Ah, c'était pas un grand buteur en plus, mais.
Il en a mis quelques-uns.
C'est ça. Bah, on va se faire une dernière. Bon, on va voir si vous êtes chaud.
Ah,
parce que là, Maxence. Ouais, c'est ça le problème.
Ça,
donc là, s'il met le troisième, ça va être compliqué. Qui était le capitaine de l'Inter Milan lors de leur triplé Serie A
Zanetti.
Contre l'Italie Ligue des Champions?
Zanetti.
Zanetti, oui, Javier Zanetti. Salson qui va m'obliger à retourner dans les petits papiers. Qui a été élu Golden Boy en 2023?
Golden Boy.
Oui.
C'est Gavi.
Non.
Golden Boy.
Yamal, il vient de le prendre deux fois. Il a fait 25-24. Et avant Yamal.
C'est Pedro, non?
Sérieusement, les gars?
Mais attends.
Attends, Yamal, il a deux fois de suite, là, non?
Oui, Yamal l'a pris deux fois de suite. Et juste avant lui.
25 qu'il a pris avant lui.
C'est.
Non, mais les gars, sérieusement, Philippe, Philippe, aujourd'hui,
t'as envie de... Donne un indice, un petit indice, là. Ah, quel championnat, non? C'est trop facile, déjà.
Oh, Gold... Ah oui, si je le donne, ça... ça...
Quel continent? C'est un Européen, un Sud-Am, un Africain?
C'est un Européen.
C'est pas Pedri ou Gavi, là?
Ah, oui, Wirtz?
Non, non, jamais de la vie.
Pedri, hein.
Ok, bon, je vais vous... Non, c'est non, pas Pedri.
Attends, nationalité, vas-y.
Ah, mais toi, tu veux vraiment le point. Tu
ouais,
vraiment
ouais,
le point.
Je le veux.
Excuse-moi, mais non, tu vas faire mieux. Non. Sérieusement, comment vous pouvez oublier 2023, le Golden Boy, c'était Jude Bellingham.
Ah, oui. Ah je ne le voyais pas si jeune.
Je ne le voyais pas si jeune. Non, mais franchement,
je ne l'aurais pas vu si jeune.
Ah, non, franchement, je ne l'avais pas vu si jeune.
Si tu m'avais dit 22 ou 21, je l'aurais vu, mais pas 23.
Mais ok.
Ah ouais. Golden Boy 2023 avec Dortmund. Oui, avec
ah ouais, parce que ça c'est deux fois que Dortmund a réussi le Real derrière.
Oui, c'est ça, exactement. Ouais, ouais, du coup, voilà, c'était Jude Bellingham. Bah, Théo, pour le premier quiz, t'as fait
zéro.
Réponse, hein. Okay. On espère pour une prochaine, en tout cas, c'était un plaisir de te recevoir.
Merci à vous, merci à vous.
Merci à Philippe, merci à Salson, merci à Maxence, merci à Vanessa. Bah, merci à.
Elle a fait sa première dans une émission de foot.
Oui, aussi.
Et. C'était, bah ouais, c'était le match de boxe au bout du foot.
C'est ça, exactement. Merci Vanessa. Et on vous remercie bien évidemment nos chers auditeurs et auditrices. Et on espère que vous allez passer une bonne soirée. On se dit à la semaine prochaine avec du football, encore du football, toujours du football. Bonne soirée à tous.